7h, 9h.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 7 novembre.
Project that Republican challenger will.
So right now, Republicans have won control of the Senate. This is not a good night for President Trump. The Democrats.
Des élections cruciales cette nuit aux États-Unis. Les démocrates ont gagné un peu de terrain. Il n'y a pas eu de déferlante anti-Trump, même s'il devra cohabiter alors qu'il est renforcé au Sénat. On vous explique tout ce qui s'est passé aux États-Unis avec la première réaction du président dès le journal de 7h avec Hélène Zélani. 7h20, on se rendra en Floride et à New York pour comprendre le choix des Américains. Dans Europe 1 va plus loin. À la une également, le chèque carburant proposé hier sur notre antenne par Emmanuel Macron. Eh bien, il a fait réagir les partenaires sociaux, mais aussi Jean-Michel Apathy. Ce sera à 7h40. Et puis à 7h45, ne manquez pas un témoignage fort, celui de Christian Streff, ancien patron de PSA. Victime d'un AVC, son incroyable histoire est racontée dans un film en salle aujourd'hui avec Fabrice Lucchini et qui tient le haut de l'affiche. Et il était un homme pressé. Christian Streff revient sur les choses simples de la vie pour ne pas finir dans les méandres du stress et des AVC. Est-ce que vous sortez du lit tranquillement ce matin? Ben oui, ben justement, prenez votre temps, tranquille. Ne stressez pas, un peu d'eau fraîche sur le visage, un petit thé pour commencer, Europe 1 pour vous accompagner. On est ensemble jusqu'à 9h. Bon réveil à tous.
Et merci d'avoir choisi Europe 1 ce mercredi 7 novembre. Il est 7h. Et votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas.
Vous voilà de retour pour le plus grand plaisir de nos auditeurs et de nous-mêmes. Bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
Et à la une de l'actualité ce matin, Hélène.
Des élections aux allures de référendum pro ou anti-Trump, les démocrates deviennent majoritaires à la Chambre des représentants. Les républicains conservent le Sénat. Détail avec Xavier Yvon depuis New York dans un instant. 5 morts, très peu de chances de retrouver des survivants dans les décombres des immeubles qui se sont effondrés à Marseille. Désormais, la polémique monte sur ces logements délabrés et pourtant toujours habité. Et puis Emmanuel Macron, alpagué par des Français inquiets pour leur pouvoir d'achat, vous allez le sentir le 17 novembre, lui a dit un retraité hier à Verdun. Thank you all, merci à tous. Ce matin sur Twitter, Donald Trump se félicite d'un immense succès aux élections de mi-mandat. Les midterms sont partis, les républicains gardent le contrôle du Sénat. En revanche, ce sont les démocrates qui remportent la Chambre des représentants. Xavier Yvon, vous êtes en direct de New York, on se dirige donc vers une cohabitation au Congrès.
Oui, tout à fait. Vous avez dans les résultats de ces midterms le reflet d'une Amérique profondément divisée, avec désormais deux têtes d'affiche, Donald Trump et son Sénat républicain, face à Nancy Pelosi, la chef des démocrates à la Chambre. Tous les deux ont revendiqué cette nuit la victoire, l'un au Sénat, l'autre à la Chambre. Nancy Pelosi s'est exprimée tout sourire. « C'est un jour nouveau pour l'Amérique », a-t-elle dit. « Nous allons pouvoir contrebalancer l'administration Trump ». Et c'est vrai que cette cohabitation va changer la vie à Washington, où les républicains détenaient tous les pouvoirs. Alors il y a quand même de la déception à gauche, parce que c'est pas la vague bleue anti-Trump que les démocrates espéraient. Ils ont perdu la plupart des élections les plus symboliques pour le Sénat, au Texas ou en Floride. Et ils pourront se consoler en se disant qu'ils font rentrer au Congrès une nouvelle génération d'élus, plus jeunes et plus féminines. Donald Trump, lui, limite la casse et il va pouvoir clamer que c'est grâce à lui et à sa campagne bulldozer sur l'immigration que les républicains ont gardé le Sénat.
Xavier Yvon, en direct de New York pour Europe 1. Et pour la petite histoire, une salvadorienne de 106 ans a reçu la nationalité américaine le jour même de ces élections pour lesquelles l'immigration était l'un des thèmes majeurs.
Et Xavier Yvon, on vous retrouve tout à l'heure à 7h20 dans Europe 1. Va plus loin pour décrypter, détailler encore davantage les enjeux de ces élections américaines et les conséquences peut-être aussi pour nous.
Europe 1, il est 7h02.
Un bilan qui s'alourdit encore ce matin et la colère qui monte à Marseille.
Oui, une cinquième personne a été retrouvée à 6h dans les décombres des immeubles qui se sont effondrés lundi. L'espoir de retrouver des survivants est de plus en plus mince quand on sait que 40 000 logements sont considérés comme indignes, soit 13% du parc à Marseille. On comprend d'autant mieux la colère des locataires de ces immeubles délabrés. Les propriétaires et la mairie connaissaient la situation, mais ils n'ont pas su réagir à temps. Écoutez le reportage de Nathalie Chevance.
Ils se considèrent comme un miraculé. Pierre, 23 ans, payait 370 euros de loyer pour un 27 mètres carrés dans cet immeuble qui aujourd'hui n'est plus qu'un tas de gravats. Un bâtiment qui depuis un an était sous le coup d'un arrêté de mise en péril, avec même une deuxième procédure lancée le mois dernier sur des logements et des parties communes qui continuaient de se dégrader.
On leur a parlé plusieurs fois, on leur a dit ça va s'effondrer, c'est sûr, il y a des fissures qui arrivent sur le mur. Dans le hall d'entrée, ça commence à se fissurer de partout. Dès vendredi, on est parti de nous-mêmes parce qu'on voyait des murs bouger. On s'est dit, c'est pas possible, donc on est parti.
Pourtant, il y a quelques semaines, des travaux avaient été réalisés et un expert avait même autorisé les locataires à rentrer chez eux. Pas de quoi rassurer Sophie, qui ces derniers jours avait alerté le syndic en vain.
Des messages, des mails, des appels, etc. Et en fait, rien n'a été fait à ce sujet-là. Les murs bougeaient, enfin on l'a vu, on le disait. Ma voisine était régulièrement enfermée chez elle, je devais donner un coup de pied pour la libérer. Donc oui, ils auraient dû nous évacuer, ils auraient dû nous écouter en fait. Parce que ma voisine de palier qui aujourd'hui est sous les décombres, c'est juste une injustice qui a une fin dramatique.
Sophie a porté plainte et n'attend qu'une chose, que la chaîne des responsabilités soit établie. Marseille, Nathalie Chevance, Europe 1.
Vous vous souvenez de cet adolescent d'un lycée de Créteil qui avait menacé son enseignante avec une arme factice lors du conseil de discipline qui s'est tenu hier soir. Il a été définitivement exclu de son établissement, de même qu'un autre garçon de 16 ans qui avait filmé et diffusé la scène.
Les questions autour du pouvoir d'achat jouent les troubles faits dans l'itinérance mémorielle du président de la République.
Oui, hier, Emmanuel Macron a choisi d'aller à la rencontre des Français lors de son passage à Verdun. Bain de foule et interpellations autour notamment de la hausse du prix du diesel sur fond d'appel à bloquer les routes le 17 novembre. Écoutez cet échange avec un retraité.
Vous, en grande ville, vous avez tous les moyens, mais ici, nous sommes en ruralité. Les gens doivent prendre leur voiture pour aller travailler. J'ai travaillé toute ma vie, moi. Je n'ai jamais arrêté une journée. Aujourd'hui, on me prend de l'argent.
Mais vous avez raison,
Monsieur le Président.
Vous êtes en colère parce que vous voulez qu'on connaisse ceux qui travaillent.
Et on y sera en colère le 17 aussi.
On est aussi dans une logique du toujours plus, sans avoir considéré que ça fait 30 ans que le pays, il est sorti des 30 glorieuses et qu'on ne peut plus raisonner avec les mêmes façons de faire.
Donc, sentez le malaise qui monte de Paris.
Je le sens. Sentez-le. Mais moi, j'agis, cher monsieur.
Vous allez le sentir le 17 novembre. Vous allez le sentir en France.
Je le sens chaque jour et je n'ai pas attendu.
Alors on attend beaucoup de vous, mais on n'ose pas y croire.
Voilà, dialogue capté par Jean-Rémy Baudot à Verdun. Dans la soirée, Emmanuel Macron s'est rendu à Reims avec le président malien pour un hommage aux quelques 200 000 soldats africains qui avaient combattu aux côtés de l'armée française pendant la Première Guerre. Suite du périple présidentiel, d'abord tout à l'heure à 8h30 sur le site de PSA Charleville-Mézières dans les Ardennes. Et c'est à la préfecture que se tiendra le Conseil des ministres à 10h, un choix symbolique. Les Ardennes, c'est à la fois un département meurtri par la Grande Guerre, mais aussi par les difficultés économique et sociale. Apparemment, il voulait s'en prendre à Emmanuel Macron. 6 suspects proches de l'ultra-droite sont en garde à vue depuis hier. Un projet encore imprécis selon les enquêteurs.
Europe 1.
Dans un instant, la suite du journal avec Hélène Zélani. On va revenir notamment sur le match nul du Paris Saint-Germain qui lui permet de rester dans la course pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. A tout de suite sur Europe 1. Bon réveil à tous.
Europe 1.
Il est 7h07. D'autres matinales info, Nico Saliegas.
Le journal avec Hélène Zélani, on va revenir sur l'affaire des bébés sans bras avec cette réunion d'information qui se tenait hier en Bretagne.
Oui, réunion entre des familles à Guidel, près de Lorient, dans le Morbihan, et les autorités sanitaires sur ces cas de malformations aux causes toujours inconnues. 4 cas répertoriés dans cette commune de 11 000 habitants entre 2011 et 2013, mais certains parents du secteur ont dit leur inquiétude de ne pas avoir été prise en compte. François Coulon assistait à la réunion.
Une demi-douzaine de médecins pour répondre à l'angoisse et à une quarantaine de questions et très vite, cette surprise, de nombreuses familles dans la salle s'inquiètent de ne pas avoir été recensées. Aurélie, maman de Lola, née sans main droite.
La colère dans le sens où nous on habite à 20 km, on n'a pas été répertoriés, on a été complètement oubliés. On est quand même tous en milieu rural. Forcément, on pense aux pesticides, c'est inquiétant.
Son fils est né à quelques dizaines de kilomètres de Guidel, Sylvie, désarçonnée.
Visiblement, il n'est pas recensé. Ils n'ont pas l'air de connaître tous les cas. Ça me semble incroyable, hein. Très inquiétant. Qu'il n'y ait pas eu d'études de fait non plus auprès des agriculteurs pour en savoir plus sur l'utilisation des produits. Pour moi, il n'y a pas une volonté de chercher à savoir.
Rien ne vous sera caché, avait promis le patron de Santé publique France. Les 200 participants sont restés sur leur faim, Cécile.
On a besoin d'avoir des réponses. On sait derrière qu'il y a des lobbying qui sont importants et qu'on ne dit pas tout. Et le problème, il est là. Quand on pose des questions, c'est toujours oui, mais ceci, oui, mais cela. Ce qui est inquiétant, c'est de ne pas avoir les réponses concrètes.
Conclusion des autorités sanitaires, les investigations seront longues, difficiles et complexes. Rien de rassérénant pour les Guidelois. Guidel, François Coulon, Europe 1.
Football, pas d'exploit pour Paris, mais toujours des espoirs de qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions.
Oui, match nul un partout hier soir pour le PSG sur le terrain de Naples. Les Parisiens sont troisièmes de leur groupe de la mort et donc rien n'est perdu. Julien Froment.
Les joueurs aiment le répéter à l'envi. En Ligue des Champions, tout se joue souvent sur des détails. Un mauvais contrôle peut avoir de grandes conséquences. C'est ce qui est arrivé au capitaine du Paris Saint-Germain, Thiago Silva, fautif sur le pénalty accordé à Naples.
J'ai fait une erreur. Quand j'ai regardé le ballon, il était trop proche de moi. Et c'était difficile de revenir à reprendre le ballon. Mais c'est une erreur qui me fait mal.
Paris pourra aussi rappeler qu'un pénalty lui a été oublié alors qu'il y avait un but partout. Ce match nul, conjugué à la défaite de Liverpool à Belgrade, reste toutefois un bon résultat pour le PSG. Le défenseur Thomas Meunier.
Sur papier, au niveau du calendrier, je pense qu'on est pas mal loti. On a l'avantage de jouer le Liverpool à domicile. Et puis après, à Belgrade, quand tu gagnes avec 6 buts à 1 au match aller, tu peux pas aller là-bas et te dire « ouais, ils peuvent nous surprendre ». Non, on doit les tuer.
Les Parisiens savent ce qu'il leur reste à faire, gagner leurs deux matchs pour sortir de cette poule de la mort et voir les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Naples, Julien Froment, Europe 1.
Et en revanche, Monaco dit adieu à la Ligue des Champions après une défaite cinglante, 4-0 à domicile face aux Belges du FC Bruges. Ce soir, Lyon accueille Hoffenheim. Et puis des nouvelles rassurantes du navigateur Armel Lecléache qui avait chaviré dans la route du Rhum. Il a été récupéré hier soir par un bateau de pêche. François Gabart reste en tête.
C'était le journal d'Hélène Zellani. Merci Hélène. Est-ce que l'actualité vous interpelle ce matin au réveil? Parce que votre réaction, vos réactions nous intéressent avec le hashtag Europe 1 ou par téléphone.
Oui, au 3921, vous nous appelez, vous laissez votre message sur le répondeur et avec le hashtag Europe 1, nous avons déjà Sophie, Isabelle, Yannis, Arlette, Adeline ou encore Alain qui sont avec nous. Vous aussi, envoyez-nous vos messages, hashtag Europe 1. Il est 7h10.
La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas.
On retrouve Nicolas Barré pour l'édito éco.
Nicolas Barré, le directeur de la rédaction du journal Les Échos, ça y est, c'est tout frais, l'Amérique a voté. Les premières conséquences sur ces élections, c'est l'économie mondiale. On en parle avec vous, Nicolas. Comment les investisseurs réagissent ce matin?
Eh bien, écoutez, la première réaction nous vient en ce moment même des marchés asiatiques qui sont tous prudemment dans le vert. Pourquoi? Parce que la perspective d'un congrès divisé avec des démocrates qui contrôlent de nouveau la Chambre des représentants est plutôt bien vue par les investisseurs. Cette cohabitation forcée limite les pouvoirs de la Maison-Blanche, ça limite le risque Trump et donc l'incertitude et très cyniquement le blocage politique qui se profile à Washington est bon pour les marchés, en tout cas préférable au scénario d'un Trump tout puissant. Et d'ailleurs si on regarde sur vraiment très longue période, les élections de mi-mandat ont presque toujours été positives pour Wall Street. Depuis 1928, les actions ont progressé dans 87% des cas l'année d'une élection à mi-mandat après ces élections, et dans la très grande majorité la hausse s'est poursuivie dans les mois qui ont suivi, ouais. Justement parce qu'on a un pouvoir plus équilibré entre la Maison-Blanche et le Congrès.
Ça rassure. Alors que vont surveiller précisément Nicolas Barré les investisseurs dans les jours et les semaines qui arrivent?
Ils vont moins surveiller la scène politique, davantage autre chose, le risque de hausse rapide des taux d'intérêt. C'est ça la grande crainte en ce moment. La moindre erreur de pilotage de l'économie peut provoquer une récession. C'est un mot qui avait disparu du vocabulaire. Voilà ce qu'ils vont surveiller. Et puis enfin, bien sûr, Trump étant toujours là, l'autre inconnu, c'est la tournure que prendra la guerre commerciale engagée avec la Chine. Apaisement ou escalade, ce sera aussi déterminant.
Nicolas Barré, l'édito Écho, c'est tous les jours à 7h10 sur Europe 1.
Et il est 7h12, la matinale d'Europe 1 continue. Semaine spéciale consacrée à l'itinérance mémorielle d'Emmanuel Macron pour le centenaire de la Grande Guerre, Nikos. Mmh. C'est l'heure de retrouver Lionel Gougelot qui se trouve sur le terrain.
Et vous êtes où ce matin, Lionel?
Eh bien écoutez Nikos, je suis sur la place de Rozoy-sur-Serre, dans le nord du département de l'Aisne, à la frontière de la Thiérache, une commune de 1000 habitants au milieu de la campagne et des kilomètres de champs alentours. Ici, il y a 30 ans, il y avait une usine qui fabriquait les célèbres caravanes Dig. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose.
Absolument.
Les caravanes Dig, ça faisait la prospérité de Rozoy. Mais quand l'usine a fermé, des dizaines de familles sont parties, les commerces ont fermé, les maisons vendues. Et les habitants comme Nicole ont vu le tissu social peu à peu se décomposer.
C'est très dur parce que comme il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés pour avoir du travail, donc c'est dur pour les jeunes qu'on aimerait qu'ils trouvent du boulot. Quoi.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'avenir en fait ici d'après
vous? Il n'y a pas beaucoup d'avenir, il y aurait peut-être de l'avenir s'il y avait des usines qui se construisaient, mais là il n'y a rien. Bon, puis après tous les petits commerces, on les préserve aussi.
Alors le drame, c'est que quand par exemple l'une des rares entreprises de la commune recrute du personnel qualifié, eh bien Vincent Mouton, directeur d'un petit centre de logistique de 50 salariés, est bien obligé de constater que le territoire n'attire plus.
Les offres de loisirs, les offres de soins de santé qui sont parfois compliquées, un peu lointaines. Et puis souvent la question du collège, du lycée, de la poursuite d'études des enfants, du travail du conjoint. Ça retarde notre croissance, clairement. On a retardé notre croissance ces deux dernières années à cause des difficultés de recrutement.
Voilà, le travail, l'éducation, carte postale de la société à Rozoy-sur-Serre. Mais que font les élus, Lionel ?
Bah, écoutez, la mairie se démène comme elle peut hein, pour tenter de redonner vie au village. Elle a par exemple créé un centre de santé. Elle a même racheté un garage pour un mécanicien et même un hôtel-restaurant, vous voyez. Mais pour Nicolas Fricoteau, l'ancien maire et aujourd'hui président du conseil départemental, il y a toujours, vous savez, ce sentiment d'abandon.
On a l'impression finalement de voir des brèches dans la coque d'un bateau et de boucher ces brèches les unes derrière les autres, mais arrive un moment où on n'y arrivera plus. On a besoin vraiment que l'État se penche sur des villages comme les nôtres, qui aujourd'hui sont un peu les oubliés de la République. Il faut de l'aménagement du territoire à travers des infrastructures et à travers des mesures fortes pour faciliter l'avenue des entreprises.
Alors, autant de questions sur lesquelles Nicolas Fricoteau pourra interpeller Emmanuel Macron cet après-midi, puisque le président de la République viendra visiter ici une maison de retraite.
On suivra le reportage avec nos correspondants et avec vous, Lionel Gougelot, en direct de Rozoy-sur-Serre, dans l'Aisne. Vous attendez donc la venue du président de la République cet après-midi. Vous êtes tous ce matin, c'est tous les jours, sur Europe 1, à 7h12, au plus près de votre actualité.
Europe 1.
Il est 7h14, restez avec nous sur Europe 1, à suivre Nicolas Aliagas.
Eh bien ma chère Céline Dacosta, dans un instant on va revenir sur l'actualité aux États-Unis pour décortiquer les premiers résultats des midterms. Pas de vague anti-Trump apparemment, l'équilibre est maintenu, on vous dit tout dans Europe 1 va plus loin, juste après ça, à tout de suite.
La matinale d'Europe 1. Nicolas Aliagas.
Il est 7h18, les principaux titres de l'actualité à retenir ce matin, Nicolas Aliagas.
Conseil des ministres délocalisé à 10h et il se tient à Charleville-Mézières dans les Ardennes et sera largement consacré à la politique des territoires. Les midterms aux États-Unis, la Chambre des représentants désormais dominée par les démocrates, tandis que les républicains conservent le Sénat. Dans un instant, Europe 1 va plus loin, décryptage des enjeux avec à New York, Xavier Yvon et à Miami, Sébastien Krebs. Football, le Paris Saint-Germain garde ses chances de qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Match nul un partout à Naples hier soir. En revanche, c'est fini pour Monaco. Battu platement 4-0 à domicile par le FC Bruges.
Europe 1. Nicolas Aliagas, Europe 1 va plus loin, direction les États-Unis pour les premiers résultats des midterms.
Eh oui, ils suivent les résultats, les premières tendances, les réactions. Bonjour Xavier Yvon, vous êtes à New York. D'abord, on va s'arrêter sur les résultats. Pas de vague bleue démocrate, mais des républicains qui perdent quand même la Chambre.
Oui, ce matin, vous avez un congrès qui est à l'image de l'Amérique, profondément divisé. Le Sénat reste donc républicain, c'était annoncé, mais les démocrates ont vu perdre deux de leurs grands espoirs en Floride et au Texas avec le jeune et charismatique Beto O'Rourke, ce qui fait tweeter à Donald Trump que c'est une, je le cite, immense victoire. Les démocrates, eux aussi, crient victoire, mais à la Chambre des représentants. Et même s'il n'y a pas eu de vague bleue anti-Trump annoncée, il y a au moins eu une vague arc-en-ciel quand on voit la diversité des candidats élus. Il y aura à la Chambre, la plus jeune femme jamais élue, Alexia Ocasio-Valdez, 28 ans, une ancienne serveuse dans le Bronx, ici à New York, avec elle aussi, pour la première fois, deux femmes musulmanes, pour la première fois également, une amérindienne qui est aussi homosexuelle et qui a gagné dans le Kansas, qui est un état très conservateur. Et enfin, le Colorado a élu le premier gouverneur homosexuel de l'histoire des États-Unis.
Xavier Yvon à New York, restez avec nous. Nous allons retrouver Sébastien Krebs qui est à Miami. Quelle est l'ambiance chez les démocrates, Sébastien ?
Oui, bonjour Nicolas. Alors ici, on a suivi la soirée avec angoisse hein, jusqu'à très tard à scruter des scores extrêmement serrés. Alors c'est un peu une habitude en Floride. Cet État est finalement à l'image de ce pays divisé quasiment à 50-50. Alors ici à Miami, il y a bien deux femmes qui sont parvenues à conquérir des sièges républicains à la Chambre des représentants. Mais à l'échelle de la Floride, ça se joue à quelques dizaines de milliers de voix. Le poste de gouverneur échappe aux démocrates. Ils vont aussi probablement perdre leur siège au Sénat. Donc c'est pas du tout la vague bleue qu'ils espéraient. Et ça veut dire que les républicains ont réussi à se mobiliser. Ça veut dire que l'opposition contre Trump n'a pas été suffisante. Et vous allez l'entendre, les démocrates semblent un peu perdus. Ils ne savent même plus comment s'y prendre.
Je suis partagé. La Chambre, c'est une bonne nouvelle, mais bon, on a encore du travail. Ce n'est pas un tsunami.
La rhétorique fonctionne. Les pubs martelées, ça marche. Et je ne comprends pas. Les gens sont réceptifs à ces discours de peur. Je ne me résigne pas à voir ce pays comme ça. C'est très frustrant. On n'a pas fait assez. Mais quelle est la bonne stratégie ?
Quelle est la bonne stratégie pour rebondir en vue de 2020 pour parler à cette Amérique qui reste sensible au discours de Trump et qui continue de le soutenir, en tout cas de soutenir sa politique. C'est ce que j'ai beaucoup entendu ici cette semaine. Trump, on n'approuve pas forcément son style ni ses propos, mais on vote pour qu'il continue à agir.
Et il est ancré dans les consciences et dans le système politique pour qu'il termine son projet politique. Merci Sébastien Krebs. On repart à New York retrouver Xavier Yvon tout de suite. Qu'est-ce que ça traduit concrètement ces premiers résultats, cher Xavier ?
Bah déjà, ça veut dire que Donald Trump est bon pour la démocratie. Oui, parce que il fait voter les Américains. La participation a battu des records. On vote pour dire qu'on le déteste ou qu'on l'aime, mais on vote. Ces résultats, oui, exactement. Ces résultats, ça veut aussi dire que Donald Trump sait toujours mobiliser sa base. Vous l'avez entendu. La peur de l'immigration, le discours radical, parfois violent, ça marche toujours. Et donc, il y a aucune raison pour qu'il change de ton. Mais on voit aussi dans les cartes électorales que cette rhétorique et les actions de Donald Trump ont un effet repoussoir dans les banlieues résidentielles des grandes villes, notamment en particulier auprès des femmes, qui ont permis de retourner des circonscriptions républicaines importantes pour gagner la Chambre. Dans la banlieue de Dallas, par exemple, on en avait parlé ensemble ici même, Nikos. Absolument. Un républicain qui avait fait 11 mandats de suite a été battu par un jeune démocrate afro-américain. Et puis on voit aussi que pour les démocrates, le simple discours anti-Trump ne suffit pas, vous l'avez entendu en Floride, il faudra trouver autre chose à proposer pour espérer reprendre la Maison Blanche en 2020.
C'est-à-dire que Donald Trump confirme son socle électoral, mais il faut trouver un autre discours et surtout une politique, avoir une histoire à raconter. Justement pour Donald Trump, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour les 2 années de mandat qui lui restent ?
Qu'on va assister à une sorte de guerre de tranchées avec un duel de chefs entre lui, Donald Trump, à la Maison Blanche, et Nancy Pelosi, qui devrait être la patronne des démocrates à la Chambre. Entre les deux, il y aura une sorte de cohabitation. Alors, le président pourra toujours gouverner par décret, comme il l'a beaucoup fait jusqu'à présent, mais il ne pourra plus faire voter de loi, sauf à s'entendre avec les démocrates. Alors, il peut oublier le financement de son fameux mur à la frontière mexicaine. Les démocrates, eux, avec la Chambre, ils ont gagné un pouvoir très puissant, celui de lancer des enquêtes parlementaires. Ils sont prêts à dégainer, notamment sur les conflits d'intérêts de la famille Trump. Ils pourront aussi déclencher une procédure d'impeachment, la destitution, mais on n'y est pas encore. Les 2 prochaines années qui viennent s'annoncent très, très homériques à Washington.
Et on suivra ça avec vous, notamment puisque vous êtes Xavier Yvon, notre correspondant à New York. On reste connecté, on vous retrouvera à 7h30 à 8h dans nos éditions d'information. Europe 1 va plus loin, c'est tous les matins à 7h20.
Europe 1, il est 7h24.
À suivre l'innovation avec Anissa Mbida, on va parler d'une voiture intelligente capable de se protéger toute seule des chocs. Elle existe.
Ah oui?
On en parle juste après ça. Vous la voulez?
Oui.
Signez-moi un petit papier, là, j'arrive.
Ça marche.
Il est 7h27. Retrouvez l'innovation du jour avec EDF.
Et avec Anissa Mbida, Nico Saliagas.
On va parler de sécurité automobile ce matin avec une voiture qui encaisse les coups en se recroquevillant.
Qu'est-ce que c'est ?
Un peu comme un boxeur, en fait, une voiture intelligente. C'est
non, on appelle ça le biomimétisme. J'adore, c'est quand la technologie vient s'inspirer de la nature. Et quel réflexe on a tous quand on sent qu'on va recevoir un coup sur le côté ?
On se protège.
On se ramasse, on se penche pour mieux absorber le choc et mieux l'encaisser. Et bien maintenant, ce sont les voitures qui vont faire la même chose. Dès que des capteurs détectent qu'un choc va arriver, la voiture va jouer sur ses suspensions et faire remonter un côté de la voiture de 7 à 8 cm, ce qui va la pencher, ce qui va pencher la voiture et lui permettre de mieux encaisser le choc, et tout ça en quelques millisecondes à peine.
Est-ce qu'elle existe déjà, cette voiture, sur le commerce ?
Oui, ça existe, mais comme toujours, ce sont des modèles très haut de gamme, puisque ça vient d'être présenté sur l'Audi A8, mais on espère que, comme l'ABS, comme l'airbag, les prix vont baisser et que ça finira sur la voiture de monsieur tout le monde, parce qu'on le rappelle, ce sont les chocs latéraux qui font le plus de dégâts, puisque les portières, c'est le talon d'Achille des voitures, c'est l'endroit le plus fragile.
Le talon d'Achille, donc, c'est la faiblesse de la voiture, la portière. Ça, je ne savais pas, je pensais que c'était l'avant, mais bon.
Non, parce qu'il y a le moteur qui peut absorber.
C'est dangereux parce que ça peut exploser. Enfin, ça, c'est délire. Moi,
les voitures qui se recroquevillent, ça existe déjà, c'est les Transformers.
Oula. Anissa Mbida, l'innovation, tous les jours à 7h25, c'est la maman qui parle.
C'était l'innovation du jour avec EDF. Aujourd'hui, EDF et ses filiales accompagnent le déploiement de nouveaux modes de transport et imaginent la mobilité électrique de demain. Plus d'infos sur edf.fr.
Dans un instant, le journal de Céline Kallmann.
La météo avec Rénoval, le réseau national de véranda et abris de piscine.
Et tout de suite, la météo avec Laurent Cabron-Nicos.
De la pluie,
oui.
Du vent
et une relative douceur.
Merci Laurent Cabrol.
Les températures baissent quand même, non ?
Et bonne journée.
Au revoir.
Alors la pluie s'en va, elle quitte en ce moment, elle se transforme en averse, vous me direz, c'est un peu la même chose sur la Bretagne, la Normandie, le Poitou-Charentes et le Limousin. Elle vient d'arriver, elle est arrivée déjà depuis quelques temps, sur la Picardie, le Nord, la région parisienne, l'Orléanais et l'Aquitaine. Cet après-midi, nous la retrouverons sur la Lorraine, la Bourgogne, l'Auvergne, la Vallée du Rhône et la région lyonnaise. Et puis peut-être ce soir sur l'Alsace et le Roussillon, nous en reparlerons. parlait tout à l'heure. Un petit zoom. Paris, des pluies fréquentes jusqu'à 10h30. Ensuite, ce sont les averses. Température de 20 degrés hier à 13 degrés aujourd'hui. Lyon, profitez de la matinée. Les pluies fréquentes pour cet après-midi et ce soir. Toulouse, plutôt des averses. Lille, 12 degrés. Journée bien arrosée. Allez, vous avez l'essentiel.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol. Et revenez vers 8h30. Pierre Perret va nous rejoindre. On va parler de chansons paillardes et grivoises. Si, si, vous allez voir, c'est drôle, sympa et ça fait du bien.
À suivre, Nico Saliagas.
Le président de la République, il a affirmé hier sur notre antenne, il souhaite que son gouvernement bouge un peu les choses sur la taxe du carburant. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Quelles sont les réactions, explications avec Jean-Michel Apathy dans 10 minutes.
Nous sommes le mercredi 7 novembre. Bon réveil à tous. Il est 7h30.
7h, 9h. Nico Saliagas sur Europe 1.
Le journal avec vous, Céline Kallmann. Bonjour.
Bonjour Nikos, bonjour à tous. La réponse du gouvernement à la grogne des automobilistes hier sur Europe 1, Emmanuel Macron annonçait vouloir élargir à l'ensemble du pays le versement d'indemnités aux travailleurs contraints de prendre leur véhicule, un dispositif qui existe déjà dans les Hauts-de-France. Du côté des employeurs, hors de question de participer au financement, les entreprises sont elles aussi impactées par la hausse des prix. Écoutez François Asselin, il est président de la Confédération des petites et moyennes entreprises.
Demander en plus aux employeurs qui, déjà, pour certains d'entre eux, dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants, doivent payer la taxe transport, dans ceux qui, dans les grandes agglomérations, participent à hauteur de 50%, voire 100% des frais de locomotion de leurs salariés pour les transports en commun, finalement, ils se retrouvent avec une double peine. La taxe sur les carburants, à payer au même titre que les Français, et en plus, maintenant, une prime pour payer une taxe. Alors, écoutez, quand est-ce que maintenant on va inventer une taxe pour payer une prime, quoi? Il faudrait peut-être un petit peu sortir de ce cercle vicieux. Je pense que la mesure de sagesse, ça serait de faire un temps mort par rapport à cette explosion fiscale sur cette écologie verte parce que nous n'avons pas d'autre alternative que de prendre des véhicules thermiques.
François Asselin, président de la CPME avec Aurélien Fleurot. Emmanuel Macron poursuit son voyage consacré à la commémoration du centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Conseil des ministres délocalisé à Charleville-Mézières ce matin à 10h. Emmanuel Macron se rendra dans la journée dans un EHPAD dans l'Aisne. Et puis samedi, un hommage sera rendu aux 8 maréchaux de la Grande Guerre dont Philippe Pétain. L'Élysée a aussitôt précisé que la distinction était évidemment faite entre le chef de 14-18 et le maréchal Pétain de 1940.
L'actualité internationale avec Donald Trump qui revendique cette nuit un immense succès électoral.
Les élections des mid-term aux États-Unis avec un résultat mitigé pour le président américain qui conserve certes la majorité au Sénat, mais les démocrates prennent le contrôle partiel du Congrès. Nancy Pelosi promet un nouvel équilibre des pouvoirs aux États-Unis. Elle est la chef des démocrates à la Chambre des représentants.
Demain sera un jour nouveau en Amérique. Rappelez-vous de ce sentiment, reconnaissez le pouvoir de la victoire. Aujourd'hui, on est au-delà des démocrates et des républicains. Il s'agit de rétablir le contrepoids constitutionnel des pouvoirs contre le gouvernement Trump. Notre responsabilité, c'est de trouver un terrain commun pour avoir une démocratie forte, un Congrès démocrate qui trouve des solutions pour nous rassembler parce que nous en avons tous assez des divisions.
Of division. Nancy Pelosi avec Xavier Yvon pour Europe 1.
Il est 7h32.
Une cinquième victime a été retrouvée ce matin sous les décombres de deux immeubles qui se sont effondrés avant-hier à Marseille.
Oui, les recherches se poursuivent, mais il y a très peu de chances désormais de retrouver des survivants. Marseille, où 13% du parc immobilier est considéré comme insalubre, 40 000 logements. Écoutez Sophie, on peut dire que c'est une miraculée. Elle habitait un immeuble effondré. Dimanche soir, elle a décidé d'aller dormir chez ses parents car sa porte ne fermait plus.
Depuis quelques semaines, les portes ne se fermaient plus parce qu'en fait, le châssis en métal était poussé par les murs. Nous, on a alerté le syndic, j'ai d'ailleurs des messages, des appels, etc. Et en fait, rien n'a été fait à ce sujet-là. Et moi, quand je suis rentrée chez moi dimanche soir, ma porte a eu ce même problème. Et du coup, moi, je me suis juste dit, si je reste chez moi, demain, je vais être enfermée, je vais plus pouvoir ouvrir. Et en fait, j'y suis allée chez mes parents et le matin, l'immeuble s'est effondré. Les gens, ils sont pas juste morts, ils ont en plus souffert. Ça a dû être un cauchemar. Donc oui, ils auraient dû nous évacuer, ils auraient dû nous écouter, en fait.
Sophie au micro Europe 1 de Nathalie Chevance. Quasiment 3 ans après les attentats de novembre 2015 à Paris, nouvelle révélation. Dans son livre Les espions de la terreur, Mathieu Suc, journaliste à Mediapart, affirme que tous les commanditaires des attaques ont été éliminés.
Ils ont été tués entre 2016 et 2017, un par un, par la coalition internationale, lors de frappes de drones. Alors par qui? Essentiellement, principalement par les Américains, parfois sur du renseignement français, parfois les Américains faisaient l'intégralité du travail ou d'autres renseignements des services étrangers.
Mathieu Suc ce matin avec Mathieu Noël sur Europe 1. Un coup de filet antiterroriste dans l'ultra-droite. 6 personnes interpellées hier dans 3 départements, 5 hommes et une femme placées en garde à vue et qui visaient le président de la République Emmanuel Macron.
Une campagne est lancée cette semaine pour sensibiliser aux dons d'ovocytes et de spermatozoïdes.
Oui, 3000 couples aujourd'hui sont en attente pour espérer avoir des enfants. Les femmes ont droit de donner leurs ovocytes jusqu'à 37 ans, 45 ans pour le don de sperme chez les hommes. Écoutez, Anaëlle, 33 ans, maman de 2 enfants, il y a un an, elle a donné ses ovocytes et elle en est fière.
Moi, j'ai la chance d'avoir 2 enfants en bas âge, donc je connais cette joie-là. Et elle m'a tellement fait mal au cœur de me dire que c'était son plus grand rêve et qu'elle pouvait pas, elle, tomber enceinte. Ça m'a vraiment touchée et je me suis dit, allez, je me lance dans cette aventure. C'est vrai que c'était quand même très lourd, médicalement parlant, des douleurs, des piqûres, des prises de sang. Et ensuite, j'ai eu une anesthésie générale. Et ensuite, au réveil, je me rappelle encore de la sage-femme qui m'a félicité, qui m'a dit vraiment, votre acte est vraiment beau. Moi aussi, j'ai des difficultés pour avoir des enfants. Voilà, c'était un acte vraiment spontané pour le coup. Et moi, je suis fière en tout cas de l'avoir fait.
Un témoignage recueilli par Ève Roger. En football, ce n'est pas fini pour Paris qui a fait match nul un partout face à Naples en Ligue des Champions hier soir. En revanche, pour Monaco, c'est la grosse claque. Hein, humilié 4-0 par Bruges. Un nouveau coup dur pour le nouvel entraîneur Thierry Henry.
Je vais utiliser le mot inquiétude, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un truc qui ne va pas dans notre sens, ou on rate une passe ou un truc flagrant, on baisse les bras. Et moi, c'est là le problème. Le vrai truc, c'est de prendre des points en championnat, même si je vous le répète encore, on cherchait à se rassurer ce soir. Peut-être que ça a mis encore plus de doutes.
Thierry Henry avec Frédéric Hélion. Et puis écoutez ceci, Nico, c'était le 7 novembre 1918, il y a 100 ans. On n'a pas le son, malheureusement.
C'est un peu plus de 100 ans, là. Mais là... On va le trouver.
Voilà, bah, je voulais vous faire entendre le premier coup de clairon donc, qui a sonné le 7 novembre 1918. Ça s'est passé dans le village de la Flamengrie dans l'Aisne où se rendra d'ailleurs en fin d'après-midi Emmanuel Macron. On l'écoutera peut-être tout à l'heure,
oui,
ce petit coup de clairon.
Le fameux clairon cellier dont vous parlez. On ne l'a toujours pas en régie. Non, on remonte le temps, c'est un peu long. Mais l'essentiel, c'est... On peut l'imaginer à la radio, on imagine.
On aurait dû en apporter un.
Mais l'essentiel, et vous avez raison, c'est de ne pas oublier. Et nous, on n'oublie pas. C'était le journal de Céline Kallmann. Merci.
Europe 1.
Il est 7h36.
Mon cher Jean-Michel Apathy, hier sur notre antenne, le président de la République s'est exprimé sur la hausse des taxes du carburant. Il a annoncé des mesures.
Oui, c'est ça. Il a fait des propositions. Et je vais vous dire la vérité, Édouard Philippe a du mal à comprendre ce que veut Emmanuel Macron. Et ça, c'est quand même un peu inquiétant. On va faire le point sur ces mesures proposées par Emmanuel Macron qui risquent de ne pas entrer en vigueur demain.
Il n'avait pas appelé peut-être le Premier ministre.
Ils ont oublié de se parler.
Mais
ils ont oublié de se parler.
C'est notre faute. À tout de suite.
Au.com.
C'était il y a 100 ans. Le 7 novembre 1918, le coup de clairon annoncé, le cessez-le-feu de la Première Guerre mondiale. Et vous nous l'avez annoncé tout à l'heure aussi, à la fin du journal, Céline Kallmann. Il a fait un petit détour, il est revenu par la rue François 1er. Le coup de clairon qui annonce aussi...
Eh bien, l'arrivée de Jean-Michel Apathy à 7h40.
Jean-Michel Apathy, le président de la République sur notre antenne hier a annoncé qu'il souhaitait améliorer le chèque carburant pour les ménages les plus modestes. Il a fait des propositions. Il n'est pas allé plus loin.
Non, il n'est pas allé plus loin. Et alors, depuis au gouvernement, on s'interroge sur le fait de savoir mais qu'est-ce qu'il veut exactement le président. Par exemple, à votre micro, Nikos, le président a parlé du chèque énergie. Il a dit qu'il faut améliorer le dispositif. Alors, le chèque énergie aujourd'hui, c'est un chèque de 150 euros. L'année prochaine, c'est 200 euros versés aux ménages qui ne sont pas imposables pour les aider à payer leur facture d'électricité et changer par exemple la chaudière s'ils en ont besoin. Alors améliorer le dispositif, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on augmente le chèque? Il vient d'être augmenté. Est-ce qu'on augmente le nombre de bénéficiaires? Mais on met combien d'argent sur la table? Aujourd'hui c'est 650 millions d'euros dans le budget. Le chèque énergie, est-ce qu'on met 50 millions de plus, 100 millions, 200 millions, où on prend l'argent? Ça, au gouvernement, vous ne trouvez personne qui a le début d'une réponse à ces questions. Le chef de l'État, ça a fait assez sensation, toujours lors de l'interview que vous avez faite avec lui, a évoqué le dispositif qui a lieu dans les Hauts-de-France. Les Hauts-de-France, donc région présidée par l'ancien ministre Xavier Bertrand, propose à chaque automobiliste qui gagne moins de 2 fois le SMIC et qui doit faire plus de 30 km pour aller à son travail, une aide mensuelle de 20 euros. Et le président de la République a dit que cette mesure, c'était une bonne philosophie. Il a appelé les régions à généraliser le processus et il a dit, sans attendre, on va défiscaliser la prime de 20 euros qui est versée chaque mois aux automobilistes. Mais ça, c'est, il y a deux problèmes. D'abord, les régions, elles font ce qu'elles veulent, et je crois que les présidents de région, hier soir, ont plutôt rejeté la proposition présidentielle. Mais sur le fond, la personne qui touche la prime, c'est indépendant de la voiture qu'elle a. C'est-à-dire, elle peut avoir une voiture diesel qui pollue beaucoup, elle touchera quand même la prime. Or, justement, si les taxes augmentent aujourd'hui ou demain, c'est précisément pour inciter les automobilistes qui ont des vieilles voitures et qui polluent à changer de voiture. Mais si on leur donne une prime à ces gens-là pour atténuer l'effet des taxes, elles ne changeront pas de voiture. D'accord. Autrement dit, la prime tue la taxe. Donc c'est complètement incohérent d'aider au versement de la prime. Incohérent. Et ça, au gouvernement, ça a surpris beaucoup de ministres hier. Que le président puisse faire cette proposition qui contrarie la politique de taxes qui est en œuvre. Et donc, du coup, au gouvernement, hier, des réunions ont eu lieu. Il y en aura une importante, visiblement, en termes de décision. Aujourd'hui, au ministère de l'Environnement. Mais enfin, personne ne comprend bien ce que veut le chef de l'État qui est visiblement surpris par la colère, l'ampleur de la colère.
Il veut désamorcer la grogne.
Et qui réagit, voilà, mais avec des approximations. Et donc, ça rend pas l'exercice gouvernemental facile. Et on aimerait quelquefois être une petite souris pour être dans le bureau d'Edouard Philippe pour savoir comment il vit tout ça. En tout cas, les décisions devraient être annoncées soit à la fin de cette semaine, soit au début de la semaine prochaine, parce qu'il faut aller vite, il faut faire tomber la fièvre avant la fameuse manifestation du 17 novembre et Nikos, c'est pas gagné.
Merci Jean-Michel Apathy, votre témoignage, votre analyse quotidienne, c'est à 7h40 sur Europe 1. À présent, c'est vous qui le dites, vous réagissez à l'actualité au 39-21, vous êtes revenu justement sur cette hausse du prix du carburant dont on vous parle depuis plusieurs jours. On écoute Olga de Montauban, mais d'abord voici Daniel de Niort.
Je pense qu'on est à l'extrémité d'une chaîne, hein, l'automobiliste. Hein. Donc, on va le taxer, hein, parce qu'il consomme de l'essence, enfin, du diesel, enfin du gasoil, quoi, en règle générale. Et c'est pas par plaisir qu'on utilise son automobile. C'est un outil de travail actuellement, maintenant, la voiture.
Oui, bonjour. Je m'appelle Olga. J'habite dans le Tarn-et-Garonne, à Montauban. Alors, on vous parle de la pollution, des voitures qui polluent, ceci, cela. Et on vous parle jamais de ce qui passe dans le ciel. C'est tous les jours, quand le ciel est dégagé chez moi, 7 ou 8 avions qui passe avec ces traînées blanches d'avions à réaction, voilà. Et ça, c'est une super pollution, hein, qui nous tombe sur la tête. Ça, on n'en parle jamais.
C'est vous qui le dites, c'est tous les matins 7h42. Réagissez à l'actualité, pour ça un numéro, le 3921. Laissez-nous votre message sur le répondeur d'Europe 1.
Europe 1.
Il est 7h44, Nikos.
Eh oui, dans un instant, un témoignage fort, poignant. Celui d'un homme dont la vie a basculé en quelques minutes. Il était grand patron, patron de Peugeot. Quand un AVC a tout effacé de sa mémoire, il a fallu se reconstruire, s'accrocher à la vie. Il s'appelle Christian Streff. Un film lui est dédié aujourd'hui au cinéma. Il a sorti un ouvrage aussi. Il est mon invité dans deux minutes.
La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas.
Il est 7h47, les principaux titres à retenir ce matin, Nico Saliagas.
Donald Trump, tout d'abord, qui évoque un énorme succès aux élections de mi-mandat. Certes, pas de vague bleue démocrate, mais les opposants au président américain prennent tout de même le contrôle partiel du Congrès. Le corps d'une cinquième victime découvert sous les décombres de deux immeubles effondrés à Marseille, ce qui porte pour l'instant le bilan à 5 morts. Les recherches se poursuivent ce matin pour tenter de retrouver d'éventuels survivants. Le Paris Saint-Germain a manqué l'occasion de prendre la tête de son groupe en Ligue des Champions en concédant le nul 1-1 à Naples.
Europe 1.
Nico Saliagas, vous recevez ce matin l'ancien patron du groupe PSA Peugeot Citroën, Christian Streff.
Bonjour Christian Streff.
Bonjour.
Vous avez 64 ans. Vous avez dirigé le groupe PSA Peugeot Citroën pendant 2 ans. Et le matin du 11 mai 2008, votre vie va basculer. Vous vous sentez soudainement mal. Vous voulez vous allonger. Et vous faites un AVC.
Oui, c'est ça. Oui. Je ne m'en souviens pas parce que j'ai simplement, ce matin-là, j'ai fait un petit somme, comme il m'arrivait souvent de le faire. 5 minutes, histoire de charger les batteries.
La sieste réparatrice du guerrier, on dit.
Voilà, voilà. Donc je ne me suis pas réveillé. Et c'est mon chauffeur qui m'a embarqué rapidement. C'est ce qui fait que je peux vous parler, je peux continuer à vous parler aujourd'hui, jusqu'à la Pitié-Salpêtrière.
Et quand vous vous réveillez, on constate que votre disque dur de votre mémoire, une partie est abîmée. Il faut tout réapprendre.
Oui, à peu près tout.
Qu'est-ce que vous avez oublié, par exemple ?
Aujourd'hui, je retrouve l'essentiel. Ce que j'avais oublié, c'est l'essentiel des mots pour parler correctement, pour vous parler à peu près comme aujourd'hui. Je pense que je parlais beaucoup mieux avant. Mais
nous, on ne voit pas, on n'entend rien. En vrai, si on ne le sait pas, on ne prête pas attention justement à des choses ou à une facilité dans votre langage.
Bon, aujourd'hui, bon, 99% a disparu.
Ouais.
Mais à l'époque, c'était beaucoup plus grave que ça.
Vous ne saviez pas dire que ceci est un verre, par exemple, ou
je ne savais pas reconnaître le verre. Je le reconnaissais bien, mais j'étais incapable de retrouver le mot, quoi. Enfin, et j'ai passé.
Mais ça, vous le réalisez. Vous savez dans votre tête ce qui se passe.
Oui, pas tout de suite. Pas tout de suite. Assez rapidement, oui. Assez rapidement. Et c'est là que bon, les orthophonistes qui sont occupés de moi et ma femme et tous les gens autour de moi m'ont énormément aidé, quoi. J'ai passé beaucoup de temps avec sous les yeux un bouquin. Un imagier, voilà.
Comme les enfants, en fait.
Tout à fait, oui. Tout à fait.
Est-ce que, après, à ce moment-là, vous vous dites, je veux m'en sortir ou non. Ou vous n'avez pas cette distance pour savoir
pas du tout, non. Disons que je me suis toujours dit que j'allais m'en sortir, que j'allais travailler, comme toujours. Hein, c'est un moment que je travaillais, quand même. Et avec la même énergie, je m'y suis mis. Et puis finalement, on a réussi, quoi.
En fait, en France, il y a près de 30 000 personnes qui en meurent des AVC chaque année. Sur les 130 000 nouvelles victimes, il y a un AVC en France toutes les 4 minutes. À ce moment-là, en 2008, vous ne le savez pas, vous ne faites pas les examens, vous travaillez dur, vous êtes un chef d'entreprise, vous tenez hein, dans la fatigue, dans l'adversité. Mais votre vie va chambouler. Est-ce que vous réalisez d'autres valeurs de la vie quand il faut reconstruire ?
Bah, j'ai deux vies aujourd'hui, hein, la première et la deuxième, hein, c'est clair. Avant, j'étais suivi quand même, médicalement.
Ouais.
Comme tout patron, je pense.
Une fois par an, voilà.
Voilà. Personne n'avait rien remarqué et je pense que rien n'était remarquable. C'est-à-dire que cet AVC, j'aurais très bien pu l'avoir avant ou même l'avoir demain. Enfin, c'est-à-dire que la difficulté, c'est que ça peut vous tomber dessus, que vous travaillez beaucoup, que vous travaillez peu. C'est une grosse discussion que j'ai toujours avec ma femme.
Il n'y a pas de signe avant-coureur, systématiquement,
non.
Il y a des petits AVC un peu silencieux.
C'est clair, je travaillais énormément, je buvais beaucoup de café, je dormais peu, ainsi de suite. Ouais. C'était le début de la crise, quand même. Il faut vous resituer un peu dans en 2008, l'automobile allait très très mal, on plongeait. Donc ça me préoccupait énormément. Je pense que je dormais très très peu à ce moment-là. Hein. C'est un des facteurs. Maintenant, est-ce que c'est le seul ? Je pense pas. Je pense pas.
Vous avez reconstruit votre vie en allant vers quoi ?
Alors, je me suis reconstruit. D'abord, j'ai passé
physiquement déjà
3 ans à réapprendre à lire, à écrire, à compter. Et j'ai réussi ça. C'est d'ailleurs le message que j'ai essayé de passer avec le bouquin à tous les gens qui ont eu un AVC. C'est battez-vous, quoi. Battez-vous.
Pas de fatalité.
Non, il y en a pas, il y en a pas. Je pense que même quand on est gravement atteint physiquement, on peut réduire le. Et j'ai eu beaucoup de courriers après ce bouquin, dont un qui m'a énormément
pressé. C'est le titre de l'ouvrage publié au Cherche Midi.
Oui, lorsqu'il est sorti, il a été lu par je pense beaucoup de gens qui avaient eu un AVC. Et il y a un souvenir que j'ai en tête, c'est un gars dont la femme m'écrivait. Parce qu'il n'était pas capable d'écrire. Et le dernier message, il m'a dit, c'est moi qui écris.
Ouais.
Et c'était merveilleux pour moi, enfin, d'avoir vaguement aidé quelqu'un à sortir de l'endroit où il était, quoi.
Christian Streff, aujourd'hui, sort un film en salle avec Fabrice Lucchini. Il joue, en fait, votre vie, inspirée de cet ouvrage. J'étais un homme pressé. Ça s'appelle Un homme pressé. On voit partout des affiches dans les grandes villes. Ça fait quoi de voir votre vie jouée par quelqu'un d'autre ?
Ça fait drôle. Lucchini le fait merveilleusement. Il interprète d'abord son rôle, hein, c'est pas moi.
D'accord.
Mais en même temps, c'est moi.
C'est une partie de vous.
C'est-à-dire que dans le film, j'ai une centaine de détails que j'ai donnés au scénariste. Mmh. C'est-à-dire que je retrouve réellement ce que j'ai vécu. Et en même temps, c'est Lucchini, c'est marrant, on pleure, on rit sans arrêt dans ce film. C'est assez fantastique.
Un dernier mot, qu'est-ce que vous avez appris de cette épreuve de la vie ? Un dernier mot ?
J'ai appris à écouter, ce que je faisais très peu avant. Et ensuite, d'abord par obligation, et ensuite par intérêt, j'écoute beaucoup plus, je pense. Et j'ai appris ce que c'est que le temps.
Mmh. Merci d'avoir été notre invité ce matin sur Europe 1, Christian Streff. Votre vie est racontée dans cet ouvrage, J'étais un homme pressé, aux éditions du Cherche Midi. Et votre vie est également portée au cinéma à partir d'aujourd'hui avec Fabrice Luchini qui vous incarne. Merci d'être passé dans la matinale d'Europe 1.
Merci.
Europe 1, il est 7h54.
À suivre le Zoom Echo, la victoire des GAFA, tout puissant face à la France et l'Europe. Explication avec Axel de Tarlé dans quelques instants.
7h, 9h. Nicolas Aliagas sur Europe.
Il est 7h57, on retrouve Axel de Tarlé, Nikos, pour le Zoom Echo.
Et le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, recule sur la taxation des GAFA. Hein. Les GAFA sont Google, Apple, Facebook, Amazon, ces géants de l'informatique et d'Internet. Est-ce que c'est une défaite pour l'Europe ?
Alors, techniquement, Nikos, on ne capitule pas. On se donne encore un peu de temps, encore 2 ans pour éventuellement taxer les GAFA. Mais bien sûr, on l'a compris, c'est une reculade. Et dans cette affaire, il faut critiquer l'Allemagne. L'Allemagne qui a peur de Donald Trump, peur de la réaction de Donald Trump qui, en représailles, pourrait s'en prendre aux constructeurs automobiles allemands. Donc, pour ne pas énerver la bête, on laisse faire les Google, Facebook et Amazon.
Mais pourquoi l'Irlande, la Suède et le Danemark sont contre cette taxe des GAFA ?
Alors, c'est vrai qu'il y a d'autres pays également qui sont contre. C'est parce que ces autres pays profitent du système actuel. Ces pays jouent perso. Par exemple, l'Irlande, on sait très bien que Google a installé son siège à Dublin avec tous les bénéfices qui remontent en Irlande. Donc oui, l'Irlande n'a aucun intérêt également à ce que ça change, donc elle bloque. Donc, vous voyez, dans cette affaire, entre l'égoïsme de l'Irlande, par exemple, et les reculades allemandes, c'est la paralysie totale, comme si l'Europe avait renoncé au leadership, renoncé à s'affirmer dans le monde. Avouez que c'est pas terrible comme message à 6 mois des élections européennes.
Le Zoom Echo avec Axel de Tarlé.
Et à 7h58, on retrouve Jean-Philippe Ballas pour la petite histoire du jour.
Et ce matin, un conte de fées. Un gamin qui passe en quelques jours de Châtelet-Léal à Los Angeles.
Ouais, vous savez quoi, pour cette histoire, il me faut du Michael Jackson. Voilà, on est dans l'ambiance parce que Michael, c'est l'idole de Salif. Salif, c'est un jeune homme de 22 ans qui a grandi à Épinay-sur-Seine, en Seine-Saint-Denis. C'est un danseur de rue qui fait la manche et qui bouge comme Michael Jackson, mais vraiment pareil, à tel point que les Américains eux-mêmes sont impressionnés. Pourtant là-bas, des gens qui se prennent pour Michael, il y en a un petit paquet. Et c'est ainsi que l'une des vidéos de Salif, bricolée sur un parvis au hall à Paris, cette vidéo a été soudain partagée à travers le monde. Et si je vous en parle, c'est parce qu'il y a quelques heures, consécration, Salif a été invité à la télévision américaine. Pas n'importe où, sur le plateau d'Ellen, du Ellen Show. Alors comment vous dire, Ellen, c'est une star, hein, c'est Nikos puissance 1000 là-bas. Dans son émission, elle a reçu Barack Obama, Michelle Obama, Lady Gaga, Brad Pitt, George Clooney et donc Salif d'Épinay-sur-Seine dans le 93, qui a dansé, qui a bluffé le public. Bravo. Écoutez cette standing ovation. Voilà, c'est tout chaud, un petit Frenchie qui donne une leçon de moonwalk aux Américains. Vous savez quoi, je pense qu'on ne le verra plus faire la manche à Paris, Salif.
Oui, Jean-Philippe Ballas, parce qu'il faut croire en ses rêves et parce qu'il ne faut jamais lâcher l'affaire. C'est tous les jours. Juste avant, 8h sur Europe 1.
À suivre le journal de David Doucan.
La météo avec Rénoval, le réseau national de véranda et abris de piscine.
Mais avant la météo avec Laurent Cabrol, Nikos.
On passera de Michael Jackson à Pierre Perret qui sera notre invité à 8h30. Et puis il fait tout doux, même malgré les pluies, mon cher Laurent.
Mais oui, tout doux, c'est-à-dire que nous avons des températures certes qui ont baissé. À Paris hier, 20 degrés, il n'en fera que 13 aujourd'hui. Mais tout de même, dans l'ensemble, c'est doux pour la saison, entre 13 et 17 degrés. La pluie va cesser progressivement, Bretagne, Normandie, Val-de-Loire, Poitou-Charente, Limousin. Elle va persister encore ce matin sur la Picardie, le Nord, la région parisienne, l'Orléanais. À Paris, ça ira mieux cet après-midi avec tout de même des averses. En ce qui concerne la Lorraine, la Bourgogne, l'Auvergne, la vallée du Rhône et la région lyonnaise, eh bien, prévoyez des intempéries en deuxième partie de journée. Puis la bonne nouvelle, c'est quand même ces perturbations qui viennent de l'Atlantique et qui traversent toute la France. Ces perturbations vont concerner aussi l'Alsace qui a besoin d'eau dans le courant de la soirée. Et la Côte d'Azur et Midi-Pyrénées seront touchées, elles, par des averses. La Côte d'Azur n'en a pas besoin. En ce qui concerne ces trains de perturbations, vous en parlerez tout à l'heure, ils passeront à cadence régulière à partir de vendredi.
À tout à l'heure, mon cher Laurent Cabrol, et si vous partez travailler, les enfants sont attachés dans la voiture, soyez prudents, on vous accompagne jusqu'à 9h, vous écoutez Europe 1.
Excellente matinée à l'écoute d'Europe 1. Il est 8h01. Votre matinale info, Nikos Aliagas.
Le journal avec David Doucan. Bonjour David.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
Trois titres à la une ce matin.
Il perd la chambre, il garde le Sénat. Les résultats des élections de mi-mandat aux États-Unis sont mitigés pour Donald Trump. Nous serons sur place avec nos envoyés spéciaux dès le début de ce journal. Emmanuel Macron se sortira-t-il de l'ornière en faisant payer les autres? Le président veut que les régions versent une indemnité aux automobilistes pour compenser la hausse du prix de l'essence. Cela enchante-t-il les élus locaux à votre avis? La réponse est non. C'est la Bérézina sur la route du Rhum. Plusieurs bateaux ont dématé. L'un des favoris, Armel Lecléache, a carrément chaviré. C'est la tempête. La mer ne fait pas de cadeaux.
Europe 1.
La Chambre des représentants bascule en faveur des démocrates, mais le Sénat reste sous le contrôle des républicains. Rejoignons, sans plus attendre, notre spécialiste et correspondant à New York, Xavier Yvon. Quelles conséquences pour Donald Trump? Xavier, Donald Trump, qui a déjà commenté sur Twitter, il parle, lui, d'un immense succès électoral.
Oui, alors ça, c'est sa vision à lui. La réalité, c'est plutôt qu'il a limité la casse. Alors certes, les républicains gardent le Sénat et même ils étendent leur majorité avec des victoires symboliques contre les nouvelles stars démocrates, notamment au Sénat. Mais la perte de la Chambre des représentants, c'est un coup dur pour Donald Trump. C'est l'assurance d'une guerre de tranchées à Washington pour les deux années à venir. Jusqu'à la fin de son mandat, le président va vivre une sorte de cohabitation. Il pourra toujours gouverner par décret, mais il ne pourra plus faire voter de loi, sauf à s'entendre avec les démocrates. Et donc, il peut oublier le financement de son mur à la frontière mexicaine. Les démocrates, eux, ont gagné avec la Chambre un pouvoir très puissant, celui de lancer des enquêtes parlementaires. Et ils promettent d'être un cauchemar pour la Maison-Blanche, prêt à dégainer des investigations sur les conflits d'intérêts de la famille Trump, sur les affaires du président, sur les liens avec la Russie. Ils pourront même, s'ils le veulent, déclencher la fameuse procédure d'impeachment, la destitution. On n'y est pas encore. La présidence Trump, saison 2, ça commence en janvier prochain avec l'investiture du nouveau Congrès. Et un nouveau personnage, Nancy Pelosi, la patronne des démocrates à la Chambre, femme énergique, détestée des conservateurs. Elle sera le visage de l'opposition et la meilleure ennemie de Donald Trump.
Merci Xavier Yvon, vous étiez en direct pour Europe 1 depuis New York.
On se croirait dans House of Cards. Allez, on va partir maintenant en Floride, à Miami.
Oui, rejoignons l'un de nos envoyés spéciaux, Sébastien Krebs. Vous avez passé, vous, la soirée au QG des démocrates dans cet état du sud des États-Unis. Alors, comment les militants prennent-ils ces résultats, Sébastien?
Eh bien d'abord avec soulagement parce que cette Chambre des représentants qui bascule, c'est un contre-pouvoir qu'ils obtiennent enfin contre le président. Et ça réjouit Nancy.
Il faut un équilibre des pouvoirs. Lorsqu'un parti décide seul, c'est hors de contrôle. J'espère qu'on pourra faire des choses sur la santé, le contrôle des armes, l'éducation, parce qu'ils nous enlèvent beaucoup de choses.
Et malgré tout, beaucoup de militants ici sont partagés, même déçus, parce qu'ils n'ont pas conquis autant qu'ils espéraient. Ce n'est pas la vague bleue dont ils rêvaient. Ils perdent, par exemple, leur siège de sénateur. C'est quasiment du 50-50, mais c'est une victoire importante pour Trump. Les républicains restent très fort, c'est vrai dans tout le pays, et ça inquiète Raphaël.
La vague bleue n'a tout simplement pas été assez forte. Et je trouve ça effrayant d'avoir un président dont les messages racistes et haineux résonnent encore au sein de la population. Ça m'inquiète beaucoup. Il faut qu'on réfléchisse maintenant à comment mieux faire campagne.
Et l'enjeu, c'est bien sûr la prochaine présidentielle 2020. Comment trouver les mots pour contrer la rhétorique de Donald Trump dans cette Floride où tout se joue toujours sur le fil.
Sébastien Krebs, merci, vous étiez en ligne depuis Miami, en Floride.
Et puis David, le bilan s'alourdit à Marseille après l'effondrement de 3 immeubles.
Oui, le corps d'une 5e victime, un homme, a été découvert vers 6h ce matin. C'est le procureur de la République qui délivre cette information. Plusieurs autres personnes sont toujours portées, disparues. Les recherches continuent.
On va en venir maintenant à cette proposition d'Emmanuel Macron qui provoque énormément de réactions.
Oui, c'était hier matin sur Europe 1 à votre micro, Nikos. Pour calmer la grogne des automobilistes, le président proposait d'étendre à tout le territoire un dispositif qui existe dans les Hauts-de-France, une indemnité de 20€ par mois pour ceux qui roulent beaucoup pour aller au travail. Mais attention, à la charge des régions. Alors évidemment, les élus locaux ne sont pas d'accord. Les explications d'Aurélien Fleureau.
À peine annoncée, la piste évoquée par Emmanuel Macron a fait l'unanimité contre elle. Pour Hervé Morin, président de l'association Régions de France, le rôle des régions, ce n'est pas de compenser les mesures fiscales prises au niveau national.
Estimer que la seule solution au matraquage fiscal qu'a décidé le gouvernement, c'est de demander à des collectivités qui font des efforts dans d'autres domaines de compenser les recettes que l'État touche, honnêtement, on est quand même dans un système qui s'approche du bonneteau ou de la patate chaude.
Une mesure datée qui ne va pas dans le bon sens, c'est-à-dire vers une réduction du nombre d'automobilistes qui circulent seuls à bord de leur voiture, explique Michel Neugnot, premier vice-président de la région Bourgogne-Franche-Comté.
Je n'ai pas vu une région qui veut dupliquer ce dispositif. Qui va payer ? Il n'y a que les régions qui sont en situation de payer de par leurs compétences. Donc je trouve que là, refiler le bébé aux régions de cette façon-là, ça ne va pas marcher.
La région Bourgogne-Franche-Comté mise plutôt sur le covoiturage en l'organisant partout en lien avec les entreprises. Même chose pour l'Île-de-France et la Bretagne. De son côté, la Normandie préfère proposer des aides de 2000 euros à l'achat d'une voiture électrique.
Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1.
Et la relation compliquée entre le président de la République et les élus locaux était l'une des mises en garde de Gérard Collomb lorsqu'il a démissionné. Il est l'invité d'Audrey Crespo-Mara à 8h15 sur Europe 1.
Et j'ajoute, Nikos, que le périple du président de la République dans l'Est et le Nord de la France continue aujourd'hui et jusqu'à la fin de la semaine. Au programme, ce mercredi, un conseil des ministres décentralisé à Charleville-Mézières.
Europe 1.
Alors justement, ce parcours mémoriel autour du centenaire de l'armistice de 1918, vous allez le découvrir dans un instant. C'est un endroit hallucinant dans le nord de la Meuse, des terres toujours polluées à cause des munitions chimiques de la Première Guerre mondiale. On vous dit tout dans le journal de David Doucan, juste après ça.
Europe 1.
Il est 8h08, votre matinale info, Nikos Aliagas.
Le journal de David Doucan et à l'occasion du centenaire de l'armistice de 1918, Europe 1 vous propose une série de reportages dans la région, oui, sur le terrain.
Oui, aujourd'hui nous sommes dans le nord de la Meuse, à Spincourt exactement, où s'est déroulé un épisode méconnu de la Première Guerre, la destruction après le conflit de centaines de milliers de munitions chimiques. Et on ne prend la mesure de cette pollution qu'un siècle plus tard. Reportage de notre correspondant Arthur Mbaché.
Ici, le blé et l'orge meurent. 100 ans après, le gaz moutarde et l'arsenic agissent encore à nos pieds, au milieu de cet immense champ exploité par Michel, 200 mètres carrés pollués.
Là, il n'y a qu'une herbe qui pousse, pas de céréales, rien du tout.
C'est ça ?
C'est un genre de chien à dents qui est résistant même au glyphosate. Même le glyphosate ne le détruit pas.
Il y a un siècle, le ministre de la Guerre ordonnait que soient rassemblées et détruites ici 1,5 million d'armes chimiques. Il y a seulement 3 ans, la préfecture décidait de neutraliser ces terres agricoles.
Dans le village, personne ne savait qu'il y avait une telle quantité d'obus qui était passée par ici.
Daniel Hippolyte est l'ancien maire de Muzeray. Il s'adresse au président de la République en déplacement tout près d'ici cette semaine.
Vous savez, il y a beaucoup de ministres qui nous ont toujours prêché que les pollueurs devaient être les payeurs. Les pollueurs, c'est l'État qui a pollué nos sols. Il devait venir avec le carnet de chèques. 2015 a été indemnisé, pas 2016, pas 2017, pas 2018. Vous croyez que c'est sérieux de la part de l'État ?
Le BRGM, Service Géologique National, enquête sur la dangerosité de cette pollution centenaire et doit publier prochainement ses conclusions. Spincourt, Arthur Mbaché, Europe 1.
Et le président de la République n'est pas passé par Spincourt. Et les habitants auraient peut-être aimé lui dire ce qu'on vient d'entendre. Mais le message est passé grâce au reportage d'Arthur Mbacher.
Europe 1, il est 8h10.
Ce n'est plus une course de voile, c'est la Bérézina. Près d'un tiers des 123 bateaux qui ont pris le départ dimanche de la route du Rhum ont subi des dommages à cause des conditions météo. Plusieurs d'entre eux ont dématé. Et l'un des favoris, Armel Lecléache, a carrément chaviré. Il a par la suite été secouru par un bateau de pêche portugais. Corinne Boulou, vous êtes notre spécialiste. Alors Corinne, comment expliquer cette série noire ? Quelles conséquences sur le plan sportif ?
Eh bien, première explication, la météo. Sachez que près d'un tiers de la flotte, notamment les voiliers les plus petits et plus lents, a choisi de se mettre à l'abri dans des ports plutôt que d'affronter une mer en furie. Les monocoques de type Vendée Globe, touchés par de nombreuses avaries, n'ont pas été épargnés. Mais c'est vrai que la catégorie des ultimes, ces trimarans géants de 32 mètres, peu nombreux, payent un lourd tribut avec 3 d'entre eux au tapis après 2 jours de course, dont un chavirage, vous l'avez dit, le deuxième en 6 mois, quand même pour Armel Lecléache, dans des creux de 5 mètres pour sa première course. Ces géants des mers, prototypes, bijoux de haute technologie, demandent des heures de fiabilisation. D'ailleurs, en tête, vous retrouvez 2 maxi trimarans éprouvés aux mains de François Gabin et Francis Joyon, qui, dans l'année, ont bouclé des tours du monde express. Dernier point, c'est une course et non un record. Vous partez le jour J avec le risque d'être en mode hivernal pour arriver au soleil en évitant la saison des cyclones. Et cela fait 40 ans que cela dure, David.
Merci Corinne Boulou. Juste en un mot, vous aviez déjà vu ça, vous, qui suivez depuis
des
années.
L'édition 2002 avait été très difficile.
Merci à vous, Corinne.
Merci à vous, David Doucan. C'était le journal de 8h.
La matinale d'Europe 1.
Nikos Aliagas.
Et tout de suite, un coup d'œil à l'international avec Vincent Hervouet, Nikos.
Première réaction après les élections américaines. Trois leçons à tirer des mid-terms ce matin, Vincent.
Oui, alors avec Donald Trump, la campagne est permanente. Il vient de faire un mandat de 2 ans et il va en aligner 4 de suite. C'est la première leçon de ces élections. Donald Trump mobilise. Avant le mid-term, c'était ennuyeux. Avec moi, ça fait un carton. C'est ce qu'il a dit. Fier comme un animateur de télé de ses audiences. Il électrise avec ses provocations sur les migrants qui sont des violeurs. Il galvanise. C'est la répétition générale avant 2020. Et puis il divise surtout les pour, les contre. Et ce matin, avec la Chambre des représentants à gauche, le Sénat à droite, tous ont perdu. Mais chacun reste sur le pied de guerre. Jamais les États-Unis l'ont été aussi peu unis.
C'est la deuxième leçon. La guerre de tranchées va continuer.
Alors le renouvellement du Congrès ne vide pas l'abcès. Au contraire, les démocrates ont maintenant de quoi lancer des commissions d'enquête. Le procureur Mueller n'a rien trouvé dans le dossier russe. Et alors, ça justifie qu'on continue à chercher. Il n'y aura pas de majorité au Sénat pour mener à bien une procédure d'impeachment. Et alors, le harcèlement est au programme. Donald Trump n'ayant pas le caractère à cohabiter, la scène de ménage avec Nancy Pelosi sera permanente.
Et la troisième leçon, c'est la vague bleue qui n'a pas déferlé.
Il y a même un reflux. Le scrutin a balayé les vedettes démocrates. Des représentants des minorités sont élus, mais c'est un parti sans champion. Il n'y a pas eu de victoire au Texas, en Floride, dans l'Ohio. Quatrième leçon. Comme les trois mousquetaires, il y en a quatre. Hein. Ouais. Les Américains votent systématiquement contre leur président au mid-term. Ils préfèrent quand l'exécutif est paralysé, le pays réel respire mieux quand le pays légal est bloqué. Mais leur président garde les mains libres en politique étrangère et ça veut dire donc que Donald Trump va continuer à semer une sorte de chaos dans le monde dont il tire égoïstement le meilleur parti.
Vincent Hervouet pour l'analyse internationale tous les matins sur Europe 1.
Europe 1, il est 8h13.
Toutes de rouge vêtue, Audrey Crespo-Mara arrive dans ce studio. Qui est votre invité ce matin?
Eh bien écoutez, il a quitté Emmanuel Macron, le gouvernement, la place Beauvau pour retourner à Lyon où la météo et la nourriture sont meilleures, paraît-il. Gérard Collomb, réélu maire de Lyon avant-hier, sera mon invité.
À suivre avec beaucoup d'attention, juste après ça.
Orangepro.fr. Il est 8h16, Nico Saliagas.
Le maire de Lyon et ancien ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, et votre invité, Audrey Crespo-Mara.
Bonjour Gérard Collomb.
Bonjour.
Alors vous êtes en direct avec nous depuis Lyon, où avant-hier vous avez été...
C'était à Lyon.
Eh oui, vous revenez plus à Paris, jamais?
Si.
Ah bon, vous avez été réélu maire avant-hier. Que répondez-vous à ceux qui disent que vous avez quitté le navire, le gouvernement, juste avant le naufrage, pour récupérer votre canot de sauvetage, la mairie de Lyon?
Je pense que ce n'est pas la réalité. Vous voyez, ça fait 15-16 mois que j'étais au ministère de l'Intérieur et je crois que nous l'avons mis sur la bonne direction. Lorsque l'on regarde le budget dont disposera ce ministère, que l'on regarde l'augmentation des forces de police, de gendarmerie, on s'aperçoit que nous sommes prêts pour pouvoir affronter des éléments qui effectivement vont être très difficile à pouvoir gérer.
Gérard Collomb, en partant de la place Beauvau, vous avez affirmé qu'aujourd'hui, dans de nombreux quartiers, c'est la loi du plus fort qui s'impose, celle des narcotrafiquants et des islamistes radicaux qui a pris la place de la République. Aujourd'hui, nous vivons côte à côte et je crains que demain, nous ne vivions face à face. Pourquoi avoir attendu de partir pour tirer le signal d'alarme ?
Ah mais si vous voulez, je l'ai tiré tout au long de mon passage au ministère.
On ne vous a pas entendu le dire publiquement ?
J'ai vu en effet un certain nombre de quartiers partout à travers la France où le narcotrafic se développait de manière incroyable. Vous voyez, aujourd'hui arrivent de manière considérable des flux d'héroïne, par exemple, à partir des ports du Pays-Bas, de la Belgique ou bien du sud de la France. Et puis, ensuite, il faut qu'ils trouvent un atterrissage dans des cités. Et là, s'organise le trafic, avec un trafic très organisé, des moyens chefs, des petits chefs, ceux qui guettent au bas des immeubles.
Et quand donc, quand vous parlez...
C'est absolument quelque chose d'impossible à vivre.
Quand vous parlez de face à face, qui voyez-vous dans ce face à face ?
Si vous voulez, à la fois des habitants terrorisés et puis en même temps des bandes qui occupent le terrain. Vous savez, moi je suis passé par exemple dans une petite ville comme Échirolles et le maire qui était pourtant communiste me disait « Monsieur le ministre, il faut envoyer les CRS ». J'avais des mamans qui occupaient des halls d'immeubles pas pour empêcher les trafiquants de pouvoir s'y installer. C'est entre les honnêtes gens et puis la poignée de celles et ceux qui, effectivement, vivent très largement du trafic.
Gérard Collomb, pire, vous auriez dit en off au magazine Valeurs Actuelles, et vous n'avez pas publié de démenti, d'ici à 5 ans, la situation pourrait devenir irréversible. On a 5-6 ans pour éviter le pire. C'est quoi le pire? C'est une guerre civile?
Non, ça veut dire, si vous voulez, que je pense qu'aujourd'hui, on a laissé se ghettoiser un certain nombre de quartiers, et que moi, je suis très partisan de la mixité sociale.
Lorsque Mais l'on le pire, regarde, le pire, qu'entendez-vous par là?
Qu'effectivement, la situation dégénérera et que les policiers n'arriveront plus à être maîtres d'un certain nombre de cités. J'étais encore hier à l'arrivée du préfet avec le directeur départemental de la sécurité publique et il me disait « la situation nous échappe ». Donc, si nous ne mettons pas le paquet sur la transformation de notre paysage, et en particulier si dans la banlieue parisienne, nous laissons procéder commune par commune et non pas dans un plan d'ensemble, nous aurons de grosses difficultés.
Gérard Collomb, ses craintes pour l'avenir de la République, vous en avez parlé avec Emmanuel Macron, lui aussi a accès à tous ces rapports de police qui font de votre inquiétude. Le président partage votre analyse ?
Ben je crois qu'il a montré qu'il la partageait. Peut-être au départ n'avait-il pas perçu la réalité, la gravité de la situation, mais je crois qu'aujourd'hui il en a pleinement conscience. Maintenant il faut agir et cela demande des réformes extrêmement rapides, à la fois sur les plans de rénovation urbaine, mais c'est en train d'être fait. Mais surtout, par exemple, le fait de pouvoir agir sur des territoires conséquents et non pas quartier par quartier, lieu par lieu, parce qu'on n'arrivera à rien. Si on ne change pas la population et si on ne remixe pas cette population, on aura effectivement des difficultés importantes.
Gérard Collomb, vous avez entendu hier sur Europe 1 Emmanuel Macron dire « la peur va changer de camp ». Il reconnaît donc qu'aujourd'hui ce sont les policiers qui ont peur. Quand il dit qu'il va durcir très fortement avec Christophe Castaner, votre successeur, la lutte contre les trafics et les bandes, vous y croyez ?
Oui, c'est possible. Vous avez des services qui sont absolument extraordinaires. Vous allez voir par exemple le Cirasco, ce service qui s'occupe justement de la grande criminalité. Ils vous décriront de manière très précise comment tout cela est organisé.
Mais il y a des services, mais encore faut-il une volonté politique.
Et arrive ensuite dans nos cités. Donc nous connaissons aujourd'hui le phénomène. Je pense que nous pouvons encore lutter contre.
Vous ne doutez pas de la volonté politique et de la force politique d'Emmanuel Macron et de Christophe Castaner?
Je pense que nous sommes, d'une certaine manière, au pied du mur. Et donc, il va falloir prendre des mesures conséquentes.
Gérard Collomb, vous êtes celui qui a déclenché une crise gouvernementale après avoir été le premier soutien d'Emmanuel Macron. Cette cassure, qu'est-ce qu'il a provoqué ? L'affaire Benalla, clairement ?
Il est clair que, si vous voulez, moi je ne comptais pas en venant au ministère de l'Intérieur me trouver mêlé à de telles histoires. Pour moi, un ministre de l'Intérieur, c'est quelqu'un qui garantit l'ordre de la République, qui le garantit pour tous. Donc oui, ça m'a un peu choqué.
Ça vous a choqué d'être mis en cause et que le président ne vous soutienne pas, au contraire ?
Bah, le fait, si vous voulez, de se trouver confronté finalement à cette enquête où tout d'un coup vous avez 1 300 000 personnes qui vous voient témoigner pour une histoire qui ne vous concerne en rien.
Donc le soutien d'Emmanuel Macron a manqué?
Ben, je ne sais pas s'il a manqué. En tout cas, je me suis senti un peu seul face effectivement au dérapage qui était infime au départ d'une personne. On aurait pu régler très très vite cette problématique.
Vous échangez toujours avec Emmanuel Macron?
Ça nous arrive.
Pas plus que ça. Merci Gérard Collomb.
Allez, au revoir.
Au revoir.
Bonne journée Monsieur le maire et ancien ministre de l'Intérieur. Et merci Audrey Crespo-Mara pour cet entretien édifiant sur l'antenne d'Europe 1 à 8h15.
Europe 1,
il est 8h23.
À suivre la revue de presse avec David Abiker. Et je le vois tout à l'heure, depuis tout à l'heure, se balader dans la rédaction. Il essaie de piquer un journal, un croissant.
Oui, c'est vrai.
Pierre Perret est avec nous. Pierre Perret qui sort un album, un petit bijou qui s'appelle Humour Liberté. On va le laisser s'installer dans quelques instants dans le studio. Et nous allons aller jusqu'à 9h ensemble, en passant même par Nicolas Canteloup. A tout à l'heure.
Europe 1, c'est eux.
Il est 8h26.
La météo avec Rénoval, le réseau national de véranda et abri de piscine.
Et avec Laurent Cabrol, Nikos.
Laurent Cabrol, ouais. J'ai un petit dicton pour vous.
Allez-y.
Qui veut mentir prétend deviner le temps qu'il fera. Mais il ne marche pas avec vous.
J'espère. Les dépressions que nous subissons en ce moment sont celles qui affrontent actuellement les concurrents de la route du Rhum. Ce sont exactement les mêmes. Et il y en a sur l'Atlantique. Il y en a une aujourd'hui, celle qui traverse la France en donnant de la pluie. Et des pluies suivies d'averses, comme les averses arrivent maintenant sur la partie ouest de la France. Et les pluies se maintiennent encore en matinée sur le nord, la région parisienne, l'Orléanais, la vallée de la Garonne, même l'Aquitaine et le Morvan, et cet après-midi sur la Lorraine, l'Auvergne et la vallée du Rhône. En ce qui concerne cette première perturbation, elle est accompagnée de vents de sud assez forts, même très forts parfois, entre 12 et 17 degrés, ça c'est la température et pas la vitesse du vent, 12-17 degrés. Paris avait 20 degrés hier, elle en a 13 aujourd'hui. Demain, c'est une accalmie, le train de perturbation est en grève, de vendredi c'est reparti, samedi c'est encore là, dimanche c'est encore présent, donc nous, comme les concurrents de la route du Rhum, on n'a pas fini d'en baver.
Merci Laurent Cabrol. Ben avec vous on en bave moins parce que on peut justement s'organiser, s'habiller, éviter, et on se retrouve juste avant 9h, tout de suite la revue de presse de David Abiker.
Europe 1. Avec les prix EDF Pulse, EDF soutient et met en lumière les startups qui inventent aujourd'hui le monde de demain. Pour la 5e édition des prix EDF Pulse, c'est Hyperlex qui a reçu le prix du jury dans la catégorie Smart Business. La plateforme créée par Hyperlex analyse et aide à gérer l'ensemble des contrats d'une entreprise pour une meilleure maîtrise des risques juridiques et financiers et un réel gain de temps. Ce prix EDF Pulse 2018 va accélérer le développement du projet.
Pour une start-up technologique comme la nôtre, le prix EDF Pulse a une portée. C'est vrai qu'on a été mis en avant sur les réseaux sociaux. Ça aura un impact sur notre crédibilité, notre visibilité auprès même de nos clients et de nos prospects avec qui on est en phase finale peut-être de négociation et pour lesquels voilà, c'est le petit coup de pouce qui va les tenter. EDF Pulse aura un impact sur notre développement, oui.
Pour mieux connaître les lauréats des prix EDF Pulse 2018, rendez-vous sur edf.fr/pulse et sur europe1.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Il est 8h28, à suivre dans la prochaine demi-heure, Nikos.
Pierre Perret, qui vient de s'installer dans notre studio à 84 ans, n'a rien perdu de sa verve. Il sort un album « Humour et liberté ». Rire, sourire et réfléchir. Je ne sais pas, mon cher Pierre, bonjour, si vous avez déjà lu la presse, si vous avez eu le temps, parce que vous allez assister à la revue de presse de David Abiker.
C'est la meilleure de France.
ça fait plaisir.
Il y aura aussi Nicolas Canteloup qui vous attend dans un instant.
Oh là là, lui alors, tiens, il est presque meilleur que David.
La revue de presse.
Nous sommes le mercredi 7 novembre, il est 8h30.
7h, 9h. Nikos Aliagas sur Europe 1.
Et on retrouve David Abiker, Nikos.
Bonjour David Abiker.
Bonjour Nikos, bonjour Pierre Perret, bonjour Céline, bonjour à tous. Alors ce matin à la une de la presse, on sera à la une de Twitter avec Trump. Trump, c'est l'éditorialiste le plus puissant du monde. Il commande depuis des semaines sa campagne, la campagne de son camp sur Twitter pour soutenir les candidats républicains. Il a prononcé des phrases dont il a le secret, ça pourrait faire des chansons. J'ai tenu plus de promesses que j'en ai faites. Je vous laisse y réfléchir. Pierre Perret, il a mouillé la chemise et le clavier pour son camp et ce matin, le voilà qui célèbre en un tweet triomphaliste un énorme succès, dit-il, alors qu'il vient de perdre la majorité à la Chambre des représentants. Alors pourquoi ce triomphalisme? Parce qu'il n'y a pas eu de vague anti-Trump, explique Le Point ce matin. Parce qu'il renforce sa majorité au Sénat, explique la Tribune de Genève. Parce que de nombreuses vedettes du Parti démocrate comme Beto O'Rourke ou Ron DeSantis ont été battues, rappelle Libération. Alors même si les démocrates peuvent revendiquer le renouvellement et la féminisation, Donald Trump peut fanfaronner. Même si on lui promet une cohabitation compliquée avec les démocrates, ça le dérange pas Donald Trump. Ça fait déjà 2 ans qu'il est en cohabitation musclée avec le monde entier. Donald Trump, il cohabite avec la Chine, avec l'Europe, avec le Canada, avec l'Iran. L'Iran qu'il menaçait jeudi, les sanctions arrivent, a-t-il tweeté, s'inspirant de la formule « l'hiver arrive », tirée de la célèbre série Game of Thrones, où il n'est question que de forceresse assiégée, de stratégie de violence et de chaos. Et Trump adore les quatre.
Il y a la bataille électorale aux États-Unis, il y a celle du
carburant en France qui inspire nos éditorialistes, David Abiker.
On pourrait dire aussi que l'hiver arrive pour Emmanuel Macron. Pas un seul édito ce matin dans la presse régionale ou la presse nationale pour défendre l'idée du président de compenser par des aides l'augmentation du prix des carburants. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Au point que ces éditos se ressemblent, mais presque mot pour mot. Écoutez le Figaro. Gaëtan de Capelle, l'affaire des carburants démontre par l'absurde à quel point le système est devenu fou. Sitôt les hausses de taxes en vigueur, un concours Lépine s'est engagé pour les annihiler. On connaissait les niches fiscales pour diminuer les impôts, mais créer des subventions pour payer des taxes, il fallait y penser. Eh bien, si vous ouvrez l'opinion, c'est pareil. Quasiment le même édito mot pour mot de Rémi Godot, et pourtant ils ne se sont pas téléphonés. Je le cite, la crise du gazole illustre jusqu'à la caricature cette mécanique folle, plumée sans vergogne le contribuable, provoquer sa colère et enfin lancer le concours Lépine, encore lui, de la meilleure usine à gaz, encore elle, pour redistribuer une fraction de la manne prélevée. Dans la montagne, Bernard Stéphan se demande si les gilets jaunes d'aujourd'hui ne sont pas les bonnets rouges de Macron. Et ça m'a fait penser à une publicité de Karl Lagerfeld il y a quelques années pour la sécurité routière. Vous vous souvenez ? C'est moche, disait-il du gilet jaune. C'est jaune, ça ne va avec rien, mais ça peut vous sauver la vie, disait Karl Lagerfeld pour la sécurité routière. On pourrait ajouter que ça peut envoyer un président dans le mur. Et la victime, c'est évidemment ce président, explique Denis Caro dans Nice Matin. Hier, à Verdun, l'histoire a buté sur les fins de mois. La mémoire s'est fracassée sur le prix du litre de gasoil.
Un président sur le front de 14-18, des gilets jaunes qui aiguisent leurs arguments et des proviseurs en vraie tenue de combat, eux.
Eh ben oui, on n'a jamais vu ça, des proviseurs en stage commando, en treillis, font la une du Parisien aujourd'hui en France. C'est une réponse symbolique au problème des violences à l'école. Après la nomination contestée d'un gendarme comme proviseur adjoint d'un lycée de banlieue parisienne, ça commence à faire beaucoup de kakis et beaucoup de bleu marine dans le monde scolaire. Ceci dit, il faut se calmer. Les 40 proviseurs qui font le parcours du combattant dans le Parisien sont en stage de cohésion et de gestion de crise. Et dans l'éducation nationale, tout le monde n'est pas contre un peu de sécurité autour et dans les établissements. L'opinion explique que face aux violences à l'école, la tactique du gendarme, c'est peut-être un peu simpliste quand même. Alors on lira avec plus d'inquiétude et de sérieux le Figaro, qui revient sur une enquête menée 15 jours après l'affaire du fameux pistolet en classe. Enquête sur les violences dont sont victimes les directeurs d'école, qui révèle que la moitié d'entre eux ont été insultés par des élèves, on s'en doutait, des parents, ça risque d'arriver avec les parents emmerdeurs, mais également par des profs, et ça c'est plus grave. Plus grave encore, 6% des directeurs d'école interrogés expliquent avoir reçu des coups, c'est 3 fois plus que dans les autres professions. C'est à croire que les nouveaux poilus bossent à l'éducation nationale. Alors heureusement, il reste en France des écoles où ça se passe bien. Parmi elles, il y en a une quarantaine qui portent le nom de notre invité de ce matin. Un certain Pierre Perret, des écoles baptisées Pierre Perret. On n'y insulte sans doute pas les profs, les directeurs n'y sont pas déguisés en soldats et les gendarmes n'y jouent pas le rôle des pions. Des écoles où on apprend encore peut-être, j'espère, la liberté.
Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux, regardez-les s'envoler, c'est beau. Les enfants, si vous voyez les petits oiseaux prisonniers, ouvrez-leur la porte vers la liberté.
Une chanson qui traverse les modes et qui vient illustrer votre revue de presse, mon cher David Abiker, c'est Pierre Perret, notre invité ce matin, et il assiste un petit peu à la construction d'une matinale. Qu'est-ce que vous avez retenu des thèmes abordés dans l'actualité par David Abiker,
Pierre Perret ? Ce qui me fait le plus marrer, c'est Trump.
Ouais.
Ah, j'adore.
Pourquoi ?
Oh, ben, chez Pinder, on l'aurait engagé tout de suite à l'époque. Hein.
Vous voulez dire que c'est un cirque qui fait du spectacle ?
Ah ben, c'est surréaliste, lui. Ah oh, oui, chez Pinder, j'adorais les clowns, et les bêtes sauvages, et lui, il est un peu tout.
En tout cas, les Américains ont voté pour lui. Il aurait pu peut-être vous inspirer pour écrire une chanson. Votre nouvel album sort vendredi, il s'appelle « Humour, liberté ». On en parle avec vous dans quelques instants sur Europe 1. Il y aura aussi Nicolas Conteloup. Vous assisterez hein, à
la revue de presse. Je suis son
fan. A tout de suite.
Il est 8h35.
Merci David Abiker.
7h, 9h.
Nico Saliagas sur Europe 1.
Il est 8h36, les principaux titres de l'actualité à retenir ce matin, Nico Saliagas.
Les élections des midterms aux États-Unis, les républicains gardent le Sénat, les démocrates prennent la Chambre. Le président Donald Trump s'est félicité d'un immense succès. Le leader démocrate Nancy Pelosi a annoncé qu'elle voulait restaurer l'équilibre des pouvoirs.
Le périple d'Emmanuel Macron continue. Conseil des ministres décentralisé ce matin à 10h à Charleville-Mézières. Le président qui se rendra dans la journée dans un EHPAD dans l'Aisne. Le Paris Saint-Germain poursuit sa route en Ligue des Champions. Match nul hier soir à Naples, un partout. En revanche, c'en est fini pour Monaco, humilié et éliminé par Bruges. 4-0.
Europe 1.
Nico Saliagas, c'est votre journée.
Ma France à moi, elle est joyeuse. Elle dit bonjour et comment allez-vous ? Mais elle sait dire non et elle est frondeuse. On ne la fera jamais mettre à genoux. Ce sont les premiers mots. C'est un poème que vous avez écrit, Pierre Perret. Bonjour. Un poème que l'on retrouve dans votre nouvel album « Humour, liberté ». Oui. À 84 ans, vous en avez encore sous le pied. Vous avez des choses à dire. Comme si c'était le premier jour, on a l'impression.
C'est à peu près ça, oui. Et puis je suis fidèle à ma manière d'avoir dit tout ce que j'avais envie de dire tout au long de cette vie, même quand ça fait mal, là où on met le doigt. Et moi, j'ai tendance à préférer mettre le doigt là où ça fait mal depuis toujours.
Voilà. Oui, parce que vous avez été censuré souvent, en fait.
C'est pas la maison où j'ai été le plus censuré ici, il faut bien dire.
Europe 1 a mis le zizi, votre tube de l'époque, je crois, c'était un 45 tours. Il a été joué sur Europe 1 quand les autres vous censuraient ?
La première fois que c'est parti pour moi, mais très fort, ça a été par les colonies de vacances ici, ouais. Et aussi par le zizi. Et entre autres, hein. Mais ça a fait grelotter le téléphone quand même, parce que ça a fait chauffer le...
Maintenant, ça fera chauffer Twitter ou autre chose avec le hashtag Europe 1. D'ailleurs, si vous nous écoutez, je ne sais pas si vous êtes déjà au travail ou chez vous, ou tout simplement vous faites un break, envoyez-nous vos réactions, vos mots pour Pierre Perret, qui est toujours inspiré par l'actualité. Parce que dans cet album Humour, Liberté qui sort vendredi, vous parlez, vous chantez le beau matelot, les émigrés, vous parlez de la pédophilie aussi dans l'église, et là vous y allez, hein. C'est-à-dire le zizi devant, c'était édulcoré.
Il ne faut pas mettre le doigt.
Oui, je vous en prie, mais est-ce que vous chanteriez cette chanson devant le pape Pierre
Perret ? Oui, vraiment. Ça me plairait bien, oui.
Parce que vous dites des choses très imagées qui pourraient choquer. Je ne sais pas si aujourd'hui on peut la passer.
Non, je ne dis que des choses vraies.
Oui.
Certes imagées, c'est encore mieux quand c'est imagé. Mais c'est ça fait plus poète. Mal quand c'est vrai.
C'est le rôle du troubadour, du poète aussi, de parler de pédophilie ?
Il n'y a aucun sujet que je m'interdis. Mm-hmm. Et c'est ça qui est quelque part grave pour d'aucuns qui ne sont pas du même avis que moi. Mais ça, je m'en... Je m'en fous.
Mais vous vous en fichez pourquoi, en vrai ? Parce qu'il faut dire les choses, il faut transgresser. Il faut chahuter.
Mais si on les dit pas les choses, la vie est tronquée d'un bout à l'autre. C'est une vie de mensonges. Et c'est en ce moment, on en connaît beaucoup des mensonges quand même. Et si on se bat pas contre ça, je sais que ça a toujours un côté Don Quichotte parce que on est toujours en train de se battre contre les moulins un peu.
Oui.
Mais ça fait rien. Et aujourd'hui, dans toutes les écoles. Même plus que celle qui porte mon nom, on apprend Lily, on apprend la cage aux oiseaux, on apprend la bête est revenue. Et ça, pour moi, il n'y a pas au-dessus. Le reste, je m'en fous. Et c'est parce que j'ai dit ces vérités-là un jour que, ben, ma foi, ça fait, c'est des petits cailloux comme ça.
Alors, il faut s'exprimer, ça, c'est aussi votre France à vous. Hein. On dit les choses dans ce pays. On ne peut pas les garder. On n'aime pas le tiède. On doit trancher.
Et moi, oui. Pour moi, oui. Bien sûr.
Cette chanson, Ma France à moi, qui est un poème épique en 70 vers, je le lis, vous l'avez posté sur les réseaux sociaux, vous êtes très actif, vous avez d'ailleurs annoncé notre entretien sur Twitter dès hier soir, vous avez eu 10 millions de vues.
Oui,
qui sont
même,
les gens
encore,
mais oui. Plus encore, mais
oui,
vous
oui.
Avez toutes les générations qui vous suivent, Pierre Perret.
Oui.
Après tant d'années de carrière.
J'ai des témoignages incroyables par, sur les réseaux et ça me scie toujours parce que il y a même des gamins de 10 ans ou des vieux schnocks comme moi et ils réagissent tous et ils me disent chacun des commentaires que je vous répéterai pas là parce que c'est...
Vas-y Pierrot, envoie du lourd, des choses comme ça.
Non, c'est étonnant.
Oui, c'est plus fin.
Oui, oui.
Quand vous dites ma France à moi, elle sait dire non, elle est frondeuse, on ne la fera jamais mettre à genoux, ça veut dire que vous êtes aussi un gilet jaune ?
Ah oui, ben, il ne faut jamais changer de couleur. On doit naître avec un gilet jaune, voilà.
On écoute un extrait du mot en liberté ?
Ah ben si vous êtes maso.
On l'est tous avec vous, pour notre plus grand plaisir.
Liberté, vérité, il faut s'en servir. Liberté, vérité, il faudra choisir. C'était une poignée de grands gosses, le soleil qui habitait leurs yeux. Travestissait les choses atroces, un éclat de rire contagieux.
Pierre Perret, extrait d'Humour Liberté, votre album qui sort vendredi prochain. Humour Liberté, ce sont les mots-clés aussi qui motivent Nicolas Canteloup tous les matins à venir nous faire rire et accompagner les Français sur l'antenne d'Europe 1. Vous restez avec nous, Pierre Perret. C'est un plaisir de vous avoir jusqu'à 9h. Il arrive, Canteloup, avec Julie, juste après ça. A tout de suite.
7h, 9h.
Nicolas Aliagas sur Europe 1. Presso.com.
Il est 8h45.
Il arrive à toute berzingue. Il est insortable, inimitable. Nicolas Canteloup et Julie pour la revue de presque.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Ils sont encore avec nous, Audrey Crespo-Mara et son invité.
Bonjour Gérard Collomb.
Oui, bonjour.
Alors Gérard Collomb, vous avez quitté le navire du gouvernement avant le naufrage pour mieux monter dans le canot de sauvetage de Lyon, c'est cela ?
Non, écoutez, je n'ai pas fui. Je suis parti avec le sentiment, du devoir accompli. Je crois que nous avons fait au ministère de l'Intérieur, avec toutes les équipes, un super boulot, un travail extraordinaire. Même si c'est vrai qu'il y a le narcotrafiquant qui trafique un peu et le fait qu'il y ait le feu partout dans les quartiers. Même le maire Coco des Chirolles m'a dit qu'il fallait envoyer l'armée. Mais à part ça, tout va bien dans le pays.
Alors, vous avez déclaré que dans 5-6 ans, pour vous, la situation serait irréversible dans les quartiers ?
Oui, écoutez, je crois, et c'est ce que je m'efforce de faire à Lyon, je crois qu'il faut plus de mixité. Il faut remixer les quartiers. Oui, je suis DJ Gérard. Oui, this is the rhythm of the siest. Écoutez, il y a trop de ghetto. Je suis quelque part le David Ghetto des
quartiers. Oh, magnifique.
Bien, bien.
Oui, je savais que ce petit jeu de mots pouvait plaire à Monsieur Perret.
Il adore.
Alors, allez, vous êtes à l'origine d'une crise gouvernementale. Vous avez, avec votre départ, c'est l'affaire Benalla qui a tout déclenché, Gérard Collomb.
Oui, vous savez, j'ai été choqué de devoir me justifier devant 1 300 000 personnes alors que je n'y étais pour rien. Ce n'était pas moi.
Mais vous échangez toujours avec le président de la République ?
Oui, ça nous arrive. Écoutez, je peux vous livrer notre dernier échange par SMS.
Oula.
Cher Gérard, bonne année 2018. Oui, c'est calme. Bon, allez, je vais me recoucher.
Allez, merci beaucoup à tous les deux. On poursuit avec Nikos. Bah, Nikos,
bonjour.
Nikos est à Verdun, oui, figurez-vous.
Salut à tous. Oui, je suis de toutes les batailles, vous l'avez compris. Je suis de la battle de Verdun. Je suis de la battle de The Boys. Je suis de toutes les battles. Mais malgré cette interview présidentielle mondiale et historique, chacun le rappelle, sachez, chers auditeurs, que je reste le même. C'est important que vous le sachiez, vous aussi, dans le studio. Même si vous êtes en dessous de moi, des sous-fifres. Je ne veux pas que vous le ressentiez. On est une équipe, on est une team, je dirais. Je reste simple,
oui.
Abordable. La régie, remets-moi le Carmina Burada quand j'arrive en studio.
Arrête avec ça.
Ah non, c'est parfait.
Pierre, il délire, Pierre, ne l'écoutez pas.
Voilà, merci, je sais prendre le micro en toute simplicité. On va parler élection américaine. Je me donne 4 jours pour interviewer Trump. Donald Trump qui perd la Chambre et qui garde le Sénat. Mais s'il perd la Chambre, où va-t-il emmener Stormy Daniels? Voilà, punchline, je suis au taquet. À toi, Julie.
Ah oui, bravo.
Bravo, bravo.
Allez, on continue avec ces 6 personnes interpellées. Elles avaient un projet d'action contre le président de la République. On a un témoignage d'une personne qui reste anonyme. Bonjour, monsieur.
Oui, bonjour à tous. Bonjour à monsieur Perret, que j'apprécie. J'aime toutes ces chansons.
sauf peut-être son couplet antiraciste Lily. Et pour Jean-Marie, en revanche, il faut de noir pour une blanche. Ça fait un sacré distinguo.
Bon, Jean-Marie Le Pen, allez, on vous a reconnu là, hein. C'est bon.
C'est très fort, hein.
Bon, on enlève les faits.
C'est fatigant, ça.
Vous avez un commentaire sur ces personnes d'extrême droite qui se sont fait arrêter ?
Merde, ils se sont fait gauler les six.
Bah pourquoi vous les connaissez ?
Pas du tout.
On avait dit que c'était jeudi l'attentat. Fallait m'attendre. Pardon, Leclerc.
Alors, ce sont des gens issus des milieux de l'extrême droite. On ne sait pas grand-chose d'eux. Si ce n'est qu'ils avaient, je cite, un projet imprécis et mal défini, monsieur Le Pen.
Oui, ça c'est, excusez-moi de le préciser, c'est tout le terrorisme et la faiblesse du terrorisme d'extrême droite. Et ça fait depuis de 1962 et le petit Clamart. Et que nous n'avons pas réussi un bel attentat. C'est vrai que nous sommes ridicules par rapport au terrorisme islamiste, n'est-ce pas ? Ridicule.
Oui.
Vous faites très bien, monsieur les gars. On va intégrer nos équipes. On se fait gauler au moment du projet, n'est-ce pas ? On ne se fait pas gauler en faisant un attentat, mais au moment du projet, c'est la honte. C'est la chouma. Chouma pour toute l'extrême droite française.
Allez, c'est bon, on vous laisse, monsieur Le Pen. L'itinéraire.
Dans le studio, monsieur.
Oui.
Alias Grasse, oui. Que je prenne vos coordonnées.
L'itinérance mémorielle de notre président Emmanuel Macron se poursuit. On est en duplex avec lui.
Les gens du Nord.
On est où là, Brigitte ? Il est parti, Nikos ?
Ah, à la bonne heure. Je reconnais pas les villes, tous ressemblent. C'est quoi ça ? C'est les Hauts-de-France ? C'est le Nord ? C'est... Dites donc le Nord, vous ne voudriez pas demander votre indépendance comme la Nouvelle-Calédonie ? Parce que... On vous l'accorde direct, hein ?
On vous entend, monsieur le président. Alors vous êtes où ? Vous êtes entre Verdun et Maubeuge, m'a-t-on dit. Hein.
Bonjour. Mmh. Oui, tout à fait. Je vous confirme que je suis au milieu de nulle part.
Oh non, arrêtez maintenant.
Bonjour à tous dans le studio et bonjour à monsieur Perret. Vous êtes un exemple pour tous les Français, car vous ne prenez pas votre retraite. Alors d'accord, c'est pour en partie faire des chansons paillardes, mais je vous dis quand même bravo, cher Pierre.
Alors la grogne des automobilistes et des gilets jaunes continue, monsieur le président.
Oui, je suis interrompu pendant mon pèlerinage pour rendre hommage à ces valeureux soldats, ces poilus qui ont tant donné pour leur pays, qui ont sacrifié leur famille, leur vie parfois, pour que vous, aujourd'hui, tous et toutes, vous soyez libres de me faire chier pour 3 euros d'essence.
Enfin, monsieur le président, allons.
Non mais c'est vrai, s'il franchement, les poilus, hein, les poilus, ça c'était de véritables héros. Moi j'aimerais les voir dans les tranchées, les gilets jaunes, hein, le gros bébert qui m'a interpellé hier pour pleurnicher sous son plein de gasoil. Mais qu'il aille se battre contre les Allemands par moins 4 degrés avec un patin en toile de tente, hein, dans une tranchée, il ramènera peut-être moins.
Bon, allez, c'est bon, merci monsieur le président et bon courage pour la suite, hein, de cette tournée. On va revenir sur le résultat des élections mid-term aux États-Unis. Laetitia Hallyday, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous vivez aux États-Unis, vous êtes en duplex de Los Angeles ce matin. Trump va être obligé de cohabiter, mais la défaite est moins sévère que prévu. À mi-mandat, Obama, Reagan et Clinton avaient perdu sévèrement, eux.
Oui, mais ça c'est parce que les médias français oublient de dire que Donald Trump, il est très aimé par une partie de l'Amérique profonde. Les idiots qu'on appelle les rednecks.
Oui, vous pouvez nous les décrire, fou là. C'est fou qui vote pour Trump.
Ah oui, Julie l'a fait. Ben, les électeurs de Trump, ils ont souvent la nuque longue, des boucles, des bandanas en drapeau américain dans les cheveux, des tatouages de lion sur le biceps et des t-shirts avec des têtes de loup et roulant Harley. Et je viens de me rendre compte que les crétins qui votent Trump, ils ressemblent aux fans de Mamour. Oh, si seulement Mamour avait été américain, j'en vendais 10 millions de mon pays, c'est l'amour.
Oh oui, ça va. Merci Laetitia. Allez, remettez-vous. Autre chose, la justice belge a demandé à l'ancien roi des Belges, Albert II, de se soumettre à un test de paternité. Il a 84 ans. Stéphane Bern, un commentaire peut-être ?
Non, un test de paternité. Non, c'est un crime d'allèse majesté. Mais vu son âge, pas vieux. Non, je suis contre. Et puis, comment on fait un test de paternité à un petit vieux de 84 ans ? Je n'ose imaginer, on ne va quand même pas placer Pépère dans une treilleuse électrique. Un peu de respect pour la monarchie, le cœur va lâcher pendant l'examen.
Oh,
ouais,
Bonjour, c'est Jean Lassalle.
Jean Lassalle.
Bonjour, Pierre Perret, que j'apprécie. Il chante le terroir, il chante la nature, il chante les chansons paillardes. J'ai une treilleuse électrique. Si ça prend au service pour le test de paternité, on étourdit le roi Albert avec un coup de gourdin. On le branche à la treilleuse électrique et l'affaire est faite.
Oh, mais vous n'y pensez pas. Non, mais ça va pas.
Oui, pardonnez-moi.
Bon, écoutez, oula.
C'est du Mistress Khan.
Oh non. Oh là là.
Non, j'ai entendu les chansons de Pierre Perret. Il ne faut pas toujours ouvrir la cage aux oiseaux, ça peut attirer des emmerdes.
Mais c'est pas possible. Bon, on peut être sérieux à nouveau. Stéphane Bern, est-ce que vous êtes contre cette décision de justice alors,
oui,
pour le roi des Belges?
Mais c'est ridicule. Et puis, à quel âge a cette gamine?
Bah, elle a 50 ans, la gamine.
Oh non, mais non, vous voyez, c'est totalement idiot. Découvrir qu'on est papa d'une petite fille, c'est mignon, mais papa d'une vieille de 50 ans.
Bon, arrêtez pour les vieilles là. Hein.
Ils vont quand même pas lui faire faire de la balançoire ou l'emmener faire des tours de manège. En tout cas, conclusion de cette affaire, qu'il soit de Monaco ou de Belgique, le Albert est très fertile. Hein, il a la semence baladeuse, la semence baroudeuse. Ça ferait une bonne chanson paillarde pour Pierrot.
Ah ben tiens, allons-y, Pierre Perret. Merci Stéphane.
Merci beaucoup Nicolas Canteloup et la revue de presse. Katia, ce qu'on a Pierre Perret avec nous qui a sorti cet album, il sort vendredi, Humour, Liberté. On disait tout à l'heure, Laetitia, Mon pays c'est l'amour, le disque de Johnny. Votre pays à vous, c'est
et
l'humour
liberté.
Et la liberté.
Voilà.
Puis il y a cette chanson qui s'appelle La Wana Niche. J'ai vu que vous parliez de Jean-Luc Lagardère. On est dans le studio Lagardère. Qu'est-ce qu'elle dit cette chanson?
Eh bien, je cite Jean-Luc Lagardère à la fin de la chanson. Je racontais une escapade qu'on avait fait avec Pivot. Avec l'ami Pivot, il y a déjà au moins deux décennies. Et on avait passé un moment fantastique, une huitaine de jours, et je raconte que pendant qu'on pêchait, puisqu'on était partis, c'était le but, on pêchait tous les jours comme des malades, un poisson qui s'appelle la Wana Niche, précisément, qui est un poisson matiné de truite et de saumon. Oui. Voilà, c'est une combinaison comme ça. Et pendant qu'on pêchait tous les jours, il y avait justement Jean-Claude Lattès, etc. Et Pivot, lui, malheureusement, il lisait, à l'époque, il avait l'émission d'apostrophe, et il passait ses journées à lire, et je lui dis, pendant qu'on sortait le poisson, lui, il se farcissait d'ormeston.
Bien, bien. Pierre Perret, ce matin avec nous, vous voulez rester à partir de 9h avec Wendy Bouchard? Je ne sais pas ce que vous avez au sommaire, ma chère Wendy, ce matin, mais...
C'est un sujet qui va faire parler.
Le tour de la question.
Oui, on va revenir sur le nouveau scandale dans l'abattoir de l'Indre, avec ces images choc.
L'abattoir de l'Indre, ah oui, c'est fort.
Je vous ferai entendre un témoignage assez exceptionnel d'un salarié d'abattoir qui va nous expliquer avec une confidentialité certaine quelles sont les cadences justement et les limites de ce métier-là, pas vraiment humain, mais il faut bien manger, disent ces gens-là aussi. Donc on donnera la parole à chacun. Vous nous direz si vous seriez prêt, vous, à manger moins de viande, est-ce que ça pourrait limiter ces actes de maltraitance. Et bien on fait le tour d'une question très sensible ce matin, mais très concernante aussi, jusqu'à 10h, et puis après on parlera du concours.
On vous retrouve dans quelques minutes, Wendy Bouchard. À tout de suite, il y aura aussi l'essentiel de la matinale.
Et la météo avec Laurent Camol, Nico, s'il est 8h58.
Tout petit tweet, petit message pour Pierre Perret. Merci d'être là, merci d'être vous, merci pour votre énergie positive, merci pour vos chansons. On vous aime, Pierre Perret.
Europe 1.
Il est 9h à suivre l'essentiel de la matinale avec vous, Nikos, mais tout de suite la météo.
Que dit le ciel, mon cher Laurent Cabrol?
Il dit qu'il pleut sur une grande partie de la France et qu'il pleuvra. Une fois que la perturbation elle-même est passée, au bout de 6-7 heures, ce sont les averses qui prennent le relais. Les derniers touchés seront l'Alsace, le Roussillon et un peu à l'écart les Alpes où il neigera dans la nuit. En ce qui concerne les températures maximales, entre 12 et 17 degrés, c'est une première perturbation. Il y en a 5 qui vont suivre avec un répit pour demain jeudi.
Nous Merci sommes le mercredi 7 novembre. On revient sur les moments forts de cette matinale, Nico Saliagas.
L'essentiel de la matinale, ce qu'il ne fallait pas rater. Les résultats des élections de mi-mandat aux États-Unis, on vous les a fait vivre tout au long de cette matinale. C'est donc une victoire en demi-teinte pour Donald Trump. Son parti, les Républicains, gardent le contrôle du Sénat. En revanche, ce sont les démocrates qui remportent la Chambre des représentants. Écoutez les réactions de Nancy et Raphaël, militants démocrates. C'était dans le journal de 8h.
Il faut un équilibre des pouvoirs. J'espère qu'on pourra faire des choses sur la santé, le contrôle des armes, l'éducation. parce qu'ils nous enlèvent beaucoup de choses.
La vague bleue n'a tout simplement pas été assez forte. Et je trouve ça effrayant d'avoir un président dont les messages racistes et haineux résonnent encore au sein de la population. Il faut qu'on réfléchisse maintenant à comment mieux faire campagne.
Retour en France avec un témoignage fort ce matin sur notre antenne, celui d'un homme dont la vie a basculé en quelques minutes. Il était un grand patron, un patron à Peugeot, quand un AVC l'a foudroyé et a effacé sa mémoire. Même son langage a été affecté. Comment se reconstruire? Comment s'accrocher à la vie? Christian Streff était mon invité à 7h45.
D'abord, je me suis reconstruit. D'abord, j'ai passé
physiquement déjà
3 ans à réapprendre à lire, à écrire, à compter. Et j'ai réussi ça. C'est d'ailleurs le message que j'ai essayé de passer avec le bouquin à tous les gens qui ont eu un AVC. C'est battez-vous.
Qu'est-ce que vous avez appris de cette épreuve de la vie?
J'ai appris à écouter. Ce que je faisais très peu avant, j'écoute beaucoup plus, je pense. Et j'ai appris ce que c'est que le temps.
Écouter, vivre, se connecter à l'essentiel, c'est l'objet de cet ouvrage « J'étais un homme pressé » aux éditions de Cherche Midi et de ce film homonyme qui sort aujourd'hui au cinéma. Fabrice Luchini incarne Christian Streff. Merci à tous de nous avoir suivis et passez une excellente journée. Merci à toute l'équipe du 7-9, la rédaction, les journalistes, les techniciens. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous, c'est le plus essentiel. Tout de suite, Wendy Bouchard. Merci Céline D'Acosta.
Merci à vous, Nikos.